Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je suis aujourd'hui ravi de recevoir Akram Benalal, Akram, chef Akram, je ne sais pas comment on te présente, salut Akram.
Bonjour Mathieu.
Chef Akram, j'aime bien chef Akram.
Ah, t'aimes bien.
Ouais.
Juste Akram, ça ira.
C'est vrai. Non, mais évidemment, il y a ce côté un peu ce fantasme autour de la cuisine et de tout ça. Donc toi, tu es chef cuisinier.
Absolument.
Entrepreneur.
Oui.
Jeune homme, parisien.
Oui, parisien. Enfin, j'ai grandi à Tours, dans l'Indre-et-Loire.
D'accord.
Exactement. Et je suis arrivé à Paris en 2000. Enfin, j'étais venu à Paris à l'époque pour travailler dans certaines grandes maisons. Et ensuite, où je grandis, c'est Tours.
D'accord.
En Indre-et-Loire.
Et donc, t'as un parcours assez rocambolesque, je crois, hein, quand même. Pas mal de voyages, d'ouverture, potentiellement de fermeture, voilà. Ouais. Aujourd'hui, tu as eu une étoile, je crois.
Oui, absolument. J'avais deux étoiles rue Lauriston.
Ouais.
Par la suite, nous avons déménagé, donc, le restaurant, qui était rue Lauriston. Et on est allé rue Tronchet, on a tout changé, enfin on a fait les travaux et on a redémarré de zéro, on a récupéré une étoile.
D'accord.
Et puis bah bien évidemment là on attend de voir dans les prochaines années potentiellement si on pourra récupérer notre deuxième étoile.
Et plus loin
si bien évidemment on y arrive donc voilà.
Alors attends, mais tu as fermé un restaurant qui avait deux étoiles ?
Oui, en fait non, parce que alors pour tout te dire, l'histoire du restaurant Akram.
Ah mais je suis là, je compte bien, tu vas tout me dire.
Ah, tu as vite fait comprendre. Je suis arrivé à Paris en 2009 et par la suite, donc, j'ai ouvert le restaurant Akram rue Lauriston. Ce restaurant-là m'a quand même beaucoup porté chance. Alors, à l'époque, il appartenait à Guy Savoy. Ça s'appelait le Bistrot de l'Étoile.
Ouais.
Et quand j'ai repris.
Je vois très bien, d'accord.
Quand j'ai repris, la première année, moi, je connaissais personne à Paris, j'étais pas dans le milieu, rien du tout. Et là, on a eu très rapidement une étoile et même pas deux ans après, on a eu la deuxième étoile. Et par la suite, donc, ça a été l'ascension, si tu veux. Mais j'avais déjà en amont, si tu veux, comment t'expliquer ? Je crois que le terme là où je me sens le mieux, c'est de parler de vision. Tu vois, c'est-à-dire d'avoir toujours un temps d'avance, c'est-à-dire toujours de penser où tu veux aller. Donc forcément, il y a une volonté de vouloir grandir, mais aussi de pouvoir créer des concepts, voir son métier beaucoup plus loin que de faire ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire de le pousser beaucoup. Jusqu'où peut-on aller ?
On va rentrer là-dedans parce que il faut le voir, hein, à Akram, notamment rue Tronchet, hein, donc près de la Madeleine. Pour ceux qui sont à Paris, je vous recommande vraiment d'y aller. Ça reste un restaurant de haute gastronomie, donc ça, c'est un certain prix, mais c'est accessible le midi notamment. Hein,
la forme du midi, elle est à 65 €. Oui. Le midi, c'est rapide en plus de ça, et vraiment, on est très généreux.
Donc,
parce qu'on donne beaucoup de plats. Donc,
je confirme. Et c'est beau, c'est bon, c'est incroyable, un accueil fantastique. Donc voilà, c'est pas un instant promo, c'est vraiment un instant découverte qui vient du fond du cœur, ce que je vous dis là. Mais on va revenir sur tous ces points de détail. Parce que là, j'ai déjà envie de savoir comment entre 2009 et... donc là, on parle d'il y a 10 ans, quoi. Et tu arrives à faire une, deux étoiles, fermer, rouvrir, et puis maintenant avoir, on faisait le compte juste avant, presque une douzaine de restaurants.
Ouais.
C'est juste vraiment assez incroyable comme parcours. Avant de remonter ce fil-là, toi, tu es d'origine algérienne.
Oui, absolument.
Né en France. Mais t'as grandi en Algérie.
Et j'ai grandi en Algérie, oui. Après, donc, j'ai grandi en Algérie jusqu'à...
Mais pourquoi alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, ma mère a suivi mon père à l'époque.
D'accord.
Et du coup, moi, j'ai grandi en Algérie jusqu'à mes 11 ans. Après, j'ai un petit frère et j'ai une petite sœur. Et mon père nous a abandonnés, j'avais 11 ans. Et du coup, on s'est retrouvé sans plus rien.
Abandonné.
Donc, abandonné, ouais. Et,
jamais revu.
Non, jamais revu. Et ce qui s'est passé entre temps, c'est que, bon, c'était une période assez difficile. Moi, j'ai dû arrêter l'école pour pouvoir tout de suite, j'avais tout de suite le rôle de responsable.
D'accord.
C'est très drôle parce que j'ai toujours voulu être le depuis tout petit, hein, j'ai toujours voulu être le celui qui protège. Enfin bon, voilà. Et du coup, j'ai dû par la suite faire les marchés pour ne serait-ce que subvenir un tout petit peu aux besoins.
En France
Non, ça c'est en Algérie. Hein.
Ouais. Donc
à 11 ans, enfin 11-12 ans. Et après, on est arrivé en France, j'avais 14 ans.
Ouais.
Donc ça a été pour moi. Est-ce que, alors quand
j'étais plus scolarisé du coup à ce moment-là?
Non, j'avais arrêté l'école à 11 ans. Et par la suite, bon, quand je raconte cette histoire, souvent on me dit ah là là, ça devait être difficile et tout. Eh ben, je vais te dire pas du tout. Je crois vraiment que ça a été pour moi mes plus belles années parce que dans ces moments en fait les plus difficiles, c'est là où on est plus soudé en fait. Et c'est là que j'ai vraiment appris que finalement la vie n'était pas c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a quand même, on passe par plusieurs stades, plusieurs schémas dans sa vie. Et c'est les capacités à savoir, prendre toute expérience pour la nourrir et pour grandir avec cette expérience. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ben, figure-toi que ça m'a apporté beaucoup par la suite. C'est ce qui m'a fait, une mentalité vraiment, assez forte à savoir recevoir les coups, à jamais lâcher, et parce que la vie c'est ça. Et si j'aurais voulu avoir tous ces problèmes là ou les problèmes, je dirais, d'entrepreneur, hormis de ça, la santé c'est ce qui est le plus important. Quand je vois qu'il y en a d'autres qui se battent tous les jours dans des lits d'hôpitaux, si tu veux, tu vois, ma philosophie, si tu veux, elle est vraiment vraiment, alors pour beaucoup elle est pas étrange, elle est juste normale en fait, c'est-à-dire
elle est optimiste, j'ai l'impression
elle est optimiste. Faut pas voir l'échec quand on réussit pas quelque chose, ça veut pas dire qu'on est mauvais. Au moins, on a essayé. Donc, par contre, on ne peut qu'apprendre. Et j'aime bien ce dicton que disait Nelson Mandela, que j'adore. Mmh. Il disait, soit j'apprends, soit je gagne. Je ne perds jamais.
Mmh.
Et c'est tellement vrai. Et par la suite, on est arrivé en France. Et là, donc en 80...
Mais alors, juste pour me dire sur ce point, je suis pas du tout, hein, soyons clairs, dans la psychanalyse, ouais. C'est pas par rapport à ce que ça t'a... Mais c'est quoi? Tu arrives en France... T'as fait des marchés, donc c'était ton job. Tu faisais des marchés tous les jours?
Absolument, ouais. Et sur le marché Michelin à Oran, je faisais le marché là-bas pour subvenir avec mes bébés, avec ce que je. En fait, pour moi, c'était un symbole très fort.
Tu montes, tu vends.
Oui, c'était très fort. C'était je vendais des légumes, je vendais des herbes. Ce que je pouvais ramener à la maison, c'était pour moi un grand symbole.
Et c'était pas le marché de, c'était pas ta mère ou quoi. Tu bossais pour gens qui te filaient trois pièces à la fois.
Voilà, c'était ça. J'aidais comme je pouvais ma mère. Elle, on vendait nos meubles, elle vendait ses habits. Moi, j'ai vu, l'appartement là où on vivait. Petit à petit, je voyais des gens venir prendre des choses et repartir. Et petit à petit, je voyais l'appartement se vider. La vraie force dans tout ça, c'était pas la mienne, c'était celle de ma mère qui ne se plaignait jamais, qui ne disait jamais, qui nous montrait pas tout ce côté-là assez difficile pour elle. Jamais, très fière, très forte, et elle a toujours tout assumé. Et je crois que ça aussi, ça fait partie. Je tiens beaucoup d'elle, ces choses-là. Voilà, c'est-à-dire que je me prends pas la tête sur des petites choses. J'essaie d'avancer. Je reste pas sur des petites choses, quoi. C'est que j'avance vite. Voilà.
Et alors, j'imagine que tu prends une grosse claque dans la gueule quand tu débarques en France à 14 ans, enfin, changement de culture, changement de...
Non, parce que l'éducation que ma mère nous a donnée, quand on sortait, quand j'étais dehors, on parlait arabe, et quand on était à la maison, on parlait français. Parce que ma mère, elle a grandi à l'époque quand l'Algérie était française,
ouais.
Et du coup, elle a grandi dans des écoles françaises,
ouais.
Elle nous a appris, elle nous a donné le savoir-vivre. quand on est arrivé en France, donc on avait déjà tout ce côté-là. Et surtout, oui, c'était pas une. Alors, la vraie claque, c'était que on savait, ma mère, quand elle avait décidé de venir en France, c'était pour nous donner un avenir. Se dire qu'elle se retrouve une femme abandonnée avec 3 enfants, qu'est-ce que je fais ? Donc, elle est venue ici, on avait beaucoup plus de chances d'avoir un avenir. Et c'est vrai que quand on était arrivé en France, ce qui était incroyable, c'était de voir à quel point la France est un pays généreux.
Ouais.
Et je crois qu'on le dit pas assez, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on laisse pas crever quelqu'un, c'est pas vrai. Faut juste remonter ses manches et y aller. Et je le dis bien fort, c'est vrai que c'est un pays où la chance elle est partout, faut savoir juste la provoquer et y aller. Faut pas l'attendre.
C'est quelque chose qui te caractérise parce que du peu que j'ai pu lire de toi, j'ai l'impression que, et je partage ça, hein, moi j'aime la France et voilà, hein, sans être démago, voilà, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un pays ton pays et que tu l'aimes et que tu le défends jusqu'au bout culture, sur le goût.
Surtout sur le tout ce qui est ce terme de générosité, c'est bien la France. Et souvent, on a du mal on le voit pas quand on y a toujours été, quand on a grandi ici, quand on a vécu ici, mais quand on vient de l'étranger, il est vrai que la chance qu'on a de pouvoir tout de suite réussir sa carrière, c'est qu'est-ce que c'est pour moi très dur. J'aurais pu très bien arriver balayer par exemple, mais j'aurais un métier. On peut faire n'importe quel métier, on a la tête haute. Il n'y a pas de sous-métier. Mmh. C'est-à-dire qu'on démarre par ça et puis on se donne une ambition. On se dit, OK, je vais arriver. Moi, je vais arriver à la Lune. C'est toute une question de volonté, de charisme, je crois aussi. Et puis de se dire, OK, je peux y arriver. Et c'est vrai qu'en France, pour les ambitieux, je dis bien pour les ambitieux, il y a énormément de place. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut surtout pas lâcher. Quand je vois parfois les gens qui me parlent de New York, qui me parlent de... Mais les États-Unis, c'est beaucoup plus dur. Mmh. C'est beaucoup plus difficile d'y arriver.
Ah, et quand tu arrives et que t'es dans la rue.
T'es dans la rue, c'est-à-dire c'est marche ou crève. Oui. En France, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'on rebondit, qu'on rencontre des gens, qu'on se fait conseiller, qu'on se fait aider. Et ça, je trouve que quand même... Et puis ça, parfois j'en parle, mais peu de gens me croient parce qu'ils y croient pas. Quand on y croit profondément, on y arrive.
Du coup, Akram, toi, tu te souviens pas de ta naissance en France et de tes 2 premières années,
non.
A priori. Tu te souviens du jour où t'es revenu ?
Oui, bien sûr, parce que j'étais revenu entre-temps.
Ouais.
Moi, la première chose qui me vient à la tête, c'était vraiment la baguette chaude. Voilà, c'était le truc, la baguette et le beurre.
Ouais,
c'est top, quoi. D'ailleurs, je le fais souvent maintenant. Je vais avec mon fils faire des petits déjeuners le matin avec des tartines comme ça. On se fait ça tous les deux. Un café. Et c'est top. Bref, et donc voilà, alors ça c'était la première des choses, et puis surtout, quand on était venu en France en 94, ma mère allait voir l'assistante sociale, elle lui donnait des bons, et puis on allait au Resto du Cœur. Mais moi je trouvais ça, c'est génial, c'est énorme, on vous donne de la nourriture, mais on voit ça où ? Les gens vous accueillent, on sortait avec des caddies, je me rappelle, on donnait du chocolat, on prenait des pâtes, c'était rationalisé, bien évidemment, mais comme quoi, voilà, il y avait tout. On avait un appartement on était aidé par les APL et tout ça, mais vous voyez, c'est tout ça, en fait, qui fait que, finalement, il y a vraiment, vraiment une aide qui est généreuse.
C'est pas marrant, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est intéressant la manière dont tu présentes ça, parce que certaines personnes en ont honte d'être passé par là ou d'être passé par les Restos du Cœur, et toi tu trouves ça fantastique?
Mais non, mais pas du tout, au contraire, je trouve que c'est la plus belle action qui existe aujourd'hui, passer par les Restos du Cœur. Et alors c'est quoi le, on n'a pas, c'est pas un échec de vie, au contraire.
Non, je vois,
au contraire, moi ça m'arrive des fois, ça m'arrive, bon je le dis à personne, mais ça m'arrive souvent d'être bénévole et d'y aller. Pour moi c'est un symbole très fort parce qu'il n'y a pas de honte, au contraire, il n'y a pas de honte. C'est pas parce que bon bah on démarre tous. Après c'est sûr, on démarre. C'est-à-dire que c'est un moyen de pouvoir y arriver. On démarre par ça, puis après on se dit ok, j'ai démarré par les Restos du Cœur, maintenant je vais aller plus haut. Après il y a bien évidemment dans des carrières de vie, il y a des personnes qui perdent tout à un âge beaucoup plus âgé, ils n'arrivent pas à rebondir, voilà, donc ils ne laissent pas à la rue. Et ça pour moi, c'est pour ça que je prône vraiment les Restos du Cœur. Je trouve que c'est pour moi la plus belle association française qui existe aujourd'hui pour les personnes qui n'ont pas à se nourrir. Je trouve qu'il y a trop d'associations, mais la seule, la vraie qui et d'ailleurs je lisais des articles qu'aujourd'hui en fait les gens donnent moins au Restos du Cœur. Je trouve ça pas normal. Je trouve qu'il faut être vraiment généreux parce que c'est vraiment une association qui a du sens et qui laisse pas les personnes sans se nourrir.
Évidemment, il y en a plein d'autres qui sont bien, mais ouais. Mais en effet, ton message est passé et j'invite tout le monde à donner au Restos du Cœur au passage. Donc tu arrives à 14 ans à Tours. Pourquoi Tours ?
Alors parce qu'on avait de la famille qui était déjà installée là-bas.
D'accord.
Qui connaissait, et du coup on s'est retrouvé à Tours.
Et là t'es obligatoirement scolarisé du coup en France, hein. T'as pas le choix.
Ouais, j'étais scolarisé, mais j'ai vite fait abandonner.
C'est quoi l'histoire ? T'arrives dans un collège ou un truc comme ça ?
Alors la première chose, c'est que j'arrive dans un collège, j'avais pas de bulletin scolaire, donc ça a été très difficile. Par la suite, donc j'en ai parlé.
Tu savais écrire, compter, lire ?
Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. J'en avais discuté avec ma mère. Qui par la suite me dit, je lui dis effectivement que moi je voulais pas aller à l'école. Je me sentais trop mûr pour aller à l'école, en fait.
Ouais.
Pour tout dire. c'est bizarre, hein, cette. Je me suis.
C'est marrant parce que t'as quand même ce côté ambitieux. Tu parlais de la lune tout à l'heure, tu parlais de tout ça. En fait, t'aurais pu arriver aussi à te sentir écrasé et te dire merde, je suis minable, ils sont tous voilà. Là, tu étais plutôt dans une approche inverse, te dire non, mais
j'étais habitué à ça, j'étais habitué à en fait. Mais non, mais quand on est dans
mais c'est un état d'esprit, c'est intéressant.
Tout de suite, on nous apprend à être un homme. Tu sais, c'est le texte de Kipling, hein.
Ouais.
C'est exactement ça. Donc, j'ai décidé d'arrêter l'école. Pour être cuisinier de métier, et je savais qu'il y avait un apprentissage, on s'était renseigné, du coup qu'il n'avait pas besoin d'aller à l'école, d'avoir des bulletins scolaires, c'était tout de suite, on nous met les pieds à l'étrier, bref, et j'ai démarré comme ça, dans un restaurant à Moulineuf. Mais avant ça, restaurant gastronomique, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et alors, je vais te dire un truc très drôle. C'est que le premier restaurant où je voulais aller travailler, c'était sur la Nationale 10 à Monet, exactement. C'était un routier. Je rentre dans le routier et là, je sors et je dis à ma mère, « Waouh, c'est génial, je suis pris dans ce restaurant. » Et là, ma mère, elle me dit, « Écoute, mon fils, ce restaurant, c'est pas un grand restaurant. » Parce que pour elle, l'image du grand restaurant, c'était les restaurants avec des nappes blanches.
D'accord, ben, c'est pas faux.
Et oui, c'est vrai. Et du coup, je lui dis, ah bon ? Elle me dit, oui. Et elle me dit, écoute, non. Elle dit, il faut que tu travailles dans un restaurant avec des nappes blanches et de la moquette. Bon. Et par la suite, effectivement, j'ai pu trouver donc un restaurant à Moulineuf.
Et c'est pas le meilleur conseil que ta mère t'ait donné ?
C'est le meilleur. Si, c'est vrai. Elle a toujours... parce que qui est mieux qu'une mère ?
C'est tellement mignon.
Elle te juge jamais.
Ouais.
Tu sais, elle est toujours là pour te montrer une direction que tu dois prendre. Qui est mieux qu'une mère pour te connaître.
Ouais.
Par la suite, donc, j'ai...
C'est très émouvant.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Et donc, par la suite, j'ai trouvé un restaurant à Moulineuf. Exactement, parce que par la suite, après tout, on a habité à Château-Renaud. Donc, c'est un petit patelin juste à côté de... de Amboise. Et là, il y a une départementale qui mène jusqu'à Blois. Et figure-toi que tous les matins, alors quand j'ai fait mon stage là-bas, j'ai été pris tout de suite. Donc le chef qui s'appelle Thierry Poidras.
Ça, c'est donc le premier du coup.
Le premier, ouais.
Et t'es arrivé, pourquoi il te prend ?
Qui a été beaucoup pour moi. Écoute, ça s'est fait d'une manière. Enfin, d'abord, j'y suis allé pour faire un stage.
Ouais.
Et donc, je suis arrivé dans cette cuisine qui était, je me rappelle encore, déjà l'odeur du restaurant. Il avait une odeur très spéciale. Et puis, je suis rentré en cuisine. Je voyais ce fourneau Molteni qui était là, brillant en inox. La cuisine était
enfin, rutilant.
Ah, c'est elle brillait quoi. Et là, c'était une vraie cuisine, un vrai restaurant quoi. Et là, je me suis dit waouh, j'estimais la chance que j'avais. Savoir estimer, tu vois. Des fois, on n'estime pas assez la chance qu'on a.
Ouais, ouais,
j'estimais la chance, je savourais cette d'accord. chance là. Et pour tellement que j'étais.
Je t'arrête, excuse-moi, ouais. Tu vas reprendre absolument là où t'étais, j'espère. Mais c'est très important ce que tu viens de dire parce que. Dans les personnes très ambitieuses ou quand t'es très entrepreneur, t'as souvent une difficulté à savourer l'instant et la chance que t'as. Tu vois ce que je veux dire?
Exactement.
Et comme tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus, et ben, t'es jamais satisfait.
Ouais.
Et c'est important, je pense, j'ai plusieurs invités qui m'en ont parlé, mais je pense que j'ai aussi beaucoup d'invités qui savent pas forcément prendre ces choses-là. Moi, j'ai toute proportion gardée, évidemment, hein, mais j'ai souvent du mal, je m'en rends compte, et c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus, de me dire, de poser, de regarder autour de moi et de me dire, waouh, j'ai la chance, quoi, je kiffe ce que je fais.
Bah oui, ouais, c'est vrai. Parce que tu sais, il n'y a que comme ça que tu peux mieux comprendre, comment dire, l'énergie que tu peux donner à ton entreprise aussi, parce que ça passe par là. C'est-à-dire que plus tu sais savourer cette chance-là, plus l'entreprise, comment dire, tu donnes une bonne énergie.
Ouais.
Et moi, là, en l'occurrence, c'est que je travaillais pour quelqu'un. C'était pas mon entreprise, c'était le restaurant de Monsieur Violette, sa femme, et Thierry Poidras qui travaillait là-bas. Bref. Et là, il est vrai que je savourais ce moment-là et pour la reconnaissance que j'avais envers cet endroit. Enfin, ce restaurant, c'est que je voulais arriver avant tout le monde. C'est-à-dire que le matin, tout le monde commençait à 9h. Moi, j'étais là-bas à 7h. Il y avait l'arrivage de poissons. Je disais rien à mon chef. Et j'étais en train de préparer. J'avais tout préparé, la mise en place. C'est-à-dire le poisson, j'avais cuit les légumes. Lui, il arrivait le matin. En fait, j'avais tout fait. Et le gars...
Il t'a appris à faire les bases.
Il m'avait appris à faire les bases. Mais la volonté que j'avais de bien faire, c'était inné chez moi. C'est-à-dire que tu vois, c'est pour ça que je dis souvent à des jeunes qui travaillent à mes côtés, qui sont aussi en apprentissage, c'est que pendant que les jeunes qui étaient à mes côtés, les apprentis du même âge que moi, hein, l'après-midi, eux, qu'est-ce qu'ils allaient ? Ils allaient jouer au foot. Moi, qu'est-ce que je faisais après le service ? Je restais au restaurant et je travaillais. C'est-à-dire que j'ai essayé de me perfectionner dans les pâtes feuilletées, la pâte sucrée, le chocolat, la pâte à choux, les glaces. Donc tout ça fait que ben, finalement, non pas je me suis privé, mais j'ai... au contraire, oui, voilà. Mais c'est-à-dire que je n'ai pas eu une adolescence d'un mec typique, normal, ouais. Typique, du gars qui va jouer au foot.
T'avais des potes quand même, du coup ?
Même pas, j'étais très... Enfin, j'avais des amis, mais... Voilà, j'avais l'escoffier et j'allais apprendre ça. Et puis surtout, c'est que moi, le matin, j'allais en stop travailler. Certains matins, j'allais en stop de Château-Renaud. Donc, je me levais, il était 6 heures. Je faisais 3 km à pied pour arriver sur cette départementale, la 177, pour faire du stop jusqu'à Molineuf. Voilà.
Et à un moment,
40 minutes de route, hein, donc c'est pas la porte à côté.
Au bout d'un moment, t'avais des gens qui te prenaient tous les jours quand même ou...
non, des fois, je tombais sur les mêmes, ou ouais. Des fois, non, je tombais sur des gens complètement différents.
Ça a duré combien de temps
Ça a duré pendant 2 ans à peu près. Après, il m'a fait. J'avais un logement juste au-dessus, mais des fois, quand ma mère me manquait, je rentrais et puis je revenais le matin en stop à Molineuf. Voilà.
Ça, c'est ta découverte de la gastronomie.
C'était ça. Mais tu sais, au-delà de ça, je voudrais juste dire une chose sur ce, sur cette période-là qui était pour moi hyper importante. C'est que les trois premiers mois, le mec très déterminé, et je sais pas pourquoi, il y a un matin, je me suis levé, j'étais chez ma mère, j'ai eu une grosse angoisse, je voulais plus y aller. Je me suis dit, laisse tomber, j'arriverai pas, en fait. J'ai eu un coup de blues. Je te parle de ça, j'avais 14 ans et demi, 15 ans, ouais. Et parce que ça me semblait très, très dur pour arriver. Je m'étais fixé un objectif, je me suis dit, ouais, ça va être compliqué, ça va être très dur. Donc, le midi, je ne suis pas allé. Et ma mère qui essayait de me dire, il faut y aller. Le matin, elle se lève, elle voit que je suis encore dans mon lit à 10h. Grosse panique. Elle a dit, qu'est-ce qu'on va faire et tout, ça va pas, c'est pas sérieux. Enfin, je dis, écoute, j'arrive pas. Et donc, mon chef a appelé chez moi à la maison. C'est ma mère qui a répondu. Elle lui a expliqué que je voulais plus y aller. Moi, j'ai pas voulu lui répondre au téléphone. Je me suis complètement dégonflé. Donc, il a fini le service à midi. Il a fait les 40 km. Il est venu chez moi à la maison à 15h. Et il est venu. Moi, je me suis caché. Il est venu. Il voulait me parler. Je suis descendu et il m'a parlé. Il m'a dit, écoute, Akram, t'as du talent. Il faut que tu continues dans ce métier. Tu as tout pour réussir. Ne gâche pas ça.
Son nom, c'était ?
Thierry Poidras. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, ces mots-là m'ont tellement touché. J'avais besoin d'être rassuré. Parce qu'en fait, je travaillais, mais j'étais un peu dans le brouillard. Je suis monté dans la voiture. Et puis, depuis ce jour, voilà, j'ai pas quitté ce chemin, ce beau chemin de ce beau métier qui est d'être cuisinier. Voilà, et c'est comme ça. Et tu vois, la vie, des fois, en fait, c'est pour ça que parfois, on sent qu'on n'a pas les capacités, on baisse les bras. Et c'est vrai que des fois, juste avoir les bons mots, bons moments de quelqu'un qui va essayer de te rassurer, ouais. Ça va te donner du punch et puis tu vas dire, ouais, je vais pas abandonner. Et ça tient un peu de choses parce que imagine, j'aurais pu dire, ok, stop, qu'est-ce que je serais pas là aujourd'hui, tu vois.
C'est aussi la force. On parlait dans un podcast récent que je recommande vraiment, avec Philippe Gabillier,
oui.
Donc là on est quelques jours après la sortie et j'ai beaucoup de très bons retours et vraiment beaucoup de gens l'aiment beaucoup cet épisode. On parle d'optimisme, on parle de chance, on parle de leadership. Et là, t'as parlé d'optimisme tout à l'heure, d'optimisme, mais vraiment on sent exactement ce qu'il a décrit en toi. Mais le leadership que tu décris par Thierry Poidras, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile à acquérir, mais qui est quand même primordial. Un leader change ta vie, quoi. Et là, on sent qu'il a changé ta vie. J'imagine peut-être, j'espère que tu changes la vie de certaines personnes dans ton escouade.
Oui,
mais
oui, parce que il faut être un passeur, je crois, ouais. Dans la vie. Tu vois, c'est pas juste d'être un chef cuisinier ou chef d'entreprise. Je pense que, tu vois, le plus beau mérite, c'est qu'un jour, on puisse parler de toi et on puisse dire, bah tiens, c'est dans cette entreprise que j'ai eu le déclic. C'est dans cette entreprise, tu sais, c'est la plus belle des choses, hein. C'est la plus belle des reconnaissances.
Mais je crois que il y a pas de bonne et mauvaise réponse à ma remarque, mais c'est très drôle parce que quand tu dis il faut être un passeur, c'est exactement ce qu'il dit. Ce qu'il dit. C'est qu'il faut, pour être un bon leader, pour avoir de la chance, il faut passer la chance à autrui. Ouais. Et ça te revient naturellement. Je dois avouer que c'est intéressant parce que
on sent
que c'est très, très instinctif chez toi aussi. Ouais, tu l'écouteras et voilà, vous pouvez le lire. Alors, on parle tous les deux du nez. J'ai l'impression qu'on est tous les deux.
Oui, c'est le rhume du foin.
C'est ça, en ce printemps 2019.
Ah là là, c'est.
Donc voilà, vous avez deux canards qui vous parlent. voilà, donc intéressant. Le restaurant était étoilé celui-ci ou...
Non, pas du tout. C'était un super bon restaurant.
Ouais.
Qui avait un bib gourmand. Il a fermé. Maintenant, il a changé parce qu'il est parti. Il fait d'autres choses maintenant.
Okay.
Il a voulu arrêter. Il a voulu avoir un restaurant beaucoup plus cool où il puisse avoir beaucoup plus de temps avec sa femme.
Okay.
Mais donc voilà, c'est là où finalement j'ai appris vraiment une philosophie de vie. Puis par la suite, j'ai découvert ce que c'était que les restaurants, les étoilés Michelin.
Et toi, dans ce moment-là, donc t'as 15-16 ans, quand tu arrêtes, c'est ça, tu restes 2 ans à peu près?
Ouais, j'avais 17 ans quand j'ai arrêté.
Ouais. Tu te projettes comment? Je veux dire, c'est quoi la différence entre Akram et qui revient d'Algérie, qui débarque à Tours
J'étais transformé. J'étais transformé. Je me suis dit tout de suite que je voulais être demain un grand chef. Il y a eu deux déclics dans ma vie. Il y avait celui-ci. Il y a eu ensuite le passage chez Pierre Gagnaire.
Ouais.
La cuisine de signature, la cuisine.
C'est pas n'importe qui, Pierre.
Pour moi, hein. Pierre Gagnaire, oui, c'est ce que j'avais toujours dit. Il y a Pierre, puis il y a les autres. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'était ça pour moi. Vraiment, hein, j'ai eu un choc émotionnel. Je me souviens encore du plat qu'il m'avait fait goûter. J'ai eu de l'électricité un peu, tu vois, le truc un peu, tu sais, où tu te sens, oh là là, il y a une émotion comme si quelque chose t'as jamais goûté et ça t'a fait des choses, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux être. Et avant ça, avant Pierre Gagnaire, dans un tout autre contexte, je regardais à l'époque Capital.
Ouais.
Et j'avais vu Alain Ducasse sur un avion entre Paris et New York, dans le Concorde, en train de déguster du caviar, avec sa valise, en train de faire de montrer ses ouvertures un peu partout dans le monde, son empire et tout ça. Et j'ai trouvé que ce mec-là, c'était pareil, il m'avait fait un déclic aussi, tu vois. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais avoir les deux. Tu vois, dans mon parcours, en fait, c'est d'avoir du talent, d'avoir une cuisine vraiment de signature. Et l'autre côté, c'est-à-dire que de donner de la valeur à son travail.
Ouais.
Et ça, je l'avais déjà à l'époque. J'ai essayé de le mixer dans ma tête. C'était pas facile parce que je me suis dit, comment faire pour être entre les deux? C'est très difficile. Et par la suite... Quand j'ai travaillé chez Ferran Adrià au restaurant El Bulli, en Espagne.
Ok.
C'était pour moi aussi.
Oui, un des.
Alors là, ce que j'ai appris.
C'était considéré comme le meilleur restaurant du monde à un moment.
Meilleur restaurant du monde. Ouais. Mais ce qui était bien, c'est que, El Bulli, surtout ce qui était très, très, très super, il était très, très fédérateur. C'était un peu comme un gourou, tu vois. Il avait. On était 40 cuisiniers, ils étaient 40 en salle, on était 80, pour servir 35 à 40 couverts tous les soirs. Et il y avait des stagiaires du monde entier qui venaient. Et puis, tu sais, on était tellement... on bossait tous les jours. On n'avait pas de jour de congé. Mais on était tellement entre nous que lui, il était tous les jours là. Puis, il faisait beaucoup de briefing le midi. Il nous expliquait, il nous disait des choses qu'au final, il avait raison. Tu vois, au départ, quand j'ai vu l'azote liquide, c'était chez lui, je voyais des choses fumer comme ça. Et il nous expliquait, il nous disait, vous savez, aujourd'hui, voilà, ce seau d'azote liquide, vous êtes tous là, vous émerveillez devant. Vous verrez que dans une semaine, quand vous direz de l'azote liquide, ça vous fera comme si vous alliez chercher de l'eau dans un robinet. Et en fait, c'est vrai, parce que tu changes après.
Mais... C'est quoi un briefing quotidien sur un... Je veux dire, c'est pareil, il faut être inspiré, il faut être... je veux dire, tu fais ça toi aujourd'hui par exemple?
Ah oui, moi je le fais souvent. Je le fais souvent parce que je pense que les briefings, et c'est ce que j'essaie de déléguer aussi à mes directeurs, les briefings c'est hyper important.
Ouais.
C'est pour motiver justement ces équipes, leur dire que c'est très bien aussi ce qu'ils font, c'est super. Leur dire quand ça va pas aussi, que oui. Quand il y a des problèmes parfois, parce que nous on est tellement, nous l'erreur humaine elle est partout, on peut faire tomber un verre maladroitement, on peut par exemple, je sais pas, t'as ta serviette qui tombe par terre, on l'a pas vu, on l'a pas récupéré, enfin il y a plein de petits détails comme ça que le client ne voit pas forcément mais que moi je vois. Et ça, ce que je disais toujours, moi je vois ce que eux ne voient pas, c'est-à-dire que j'ai un regard différent pour leur apporter, parce que pourquoi, il faut toujours maintenir la barre très très haute, sinon on peut se dire c'est pas très grave, c'est vrai, on peut se dire c'est pas très grave, le client de toute façon il le voit pas, c'est des petits détails, je chipote sur des petits détails, mais le diable se cache dans les petits détails,
oui.
Y a pas, c'est comme ça, et c'est vrai, le fait de faire des briefings, ça leur montre aussi que j'ai un intérêt pour eux, je suis aussi content de leur travail, qu'ils apportent, chacun d'eux apporte leur pierre à l'édifice. Je leur parle de problèmes aussi. Et voilà, donc c'est vraiment un échange qu'on
mais
a
je
souvent.
Je pense que c'est le propre, enfin c'est la, dans la recherche d'excellence, c'est nécessaire entre
c'est
guillemets. Enfin, tu
nécessaire.
Parles de foot de haut niveau, tu parles d'entreprise, tu parles de start-up, il faut être capable
il faut
de
être
fédérer
capable.
En fait.
Hein. Voilà, exactement, ouais. Et puis surtout que si tu veux, toutes les étapes de ma vie, j'ai appris sur moi-même aussi. J'ai fait des erreurs aussi, tu vois, des erreurs de management, des erreurs. Mais vu que j'ai été chef très vite, j'avais 25 ans. Ma première place de chef, maintenant aujourd'hui j'en ai 37.
25 ans.
25 ans, j'avais des responsabilités, même avant, je vais te dire à 22 ans, parce que je me suis retrouvé pendant 3 ans à Luxembourg à gérer un restaurant là-bas qui était
partout,
incroyable.
En fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tout de suite, je voulais avoir des responsabilités très jeunes.
Mais alors, attends. Du coup, pour revenir là-dessus, Pierre Gagnaire, mais même juste avant, quand tu commences chez Thierry Poydras,
ouais.
Tu t'épluches des légumes.
Ah oui,
tu fais la plonge. Enfin,
ah oui, on faisait tout. On était multitâches, je faisais la plonge, faisais les légumes, faisais tout.
Mais il y a un moment avant de vraiment cuisiner, c'est tout de suite.
Créer,
non mais même ouais, créer, oui, oui.
Oui, alors créer, je faisais ça chez moi à la maison par exemple. J'avais cet instinct inné,
ouais.
je voulais créer, je voulais faire des choses. J'ai encore des dessins que j'avais à l'époque, je dessinais, je faisais des croquis que je fais encore, hein, je peux te montrer mon iPad, ouais. Si tu veux, ça, c'était, j'étais vraiment, enfin, je suis toujours, habité par ce que je fais, mais vraiment, tu vois. Il y a pas plus, enfin, je me sens pas plus heureux que quand je cuisine pour les autres. Et tu vois, puis par la suite, c'est très drôle. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs phases dans ma vie et il y a eu des phases où, tu vois, je cuisinais pour être dans un exercice de démonstration. Et en fait, je me gourais totalement. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, je cuisinais pas pour les clients, je cuisinais pour moi.
Ouais, ouais.
En fait, je voulais prouver. Et je me plantais complètement parce que j'étais complètement à côté de la plaque. C'était pas ça qu'il fallait faire.
C'est la difficulté d'aller aussi vite. C'est qu'il y a un moment, c'est toutes les craintes que tu peux avoir sur des stars comme Mbappé ou des gens comme
ça
qui sont des gens qui explosent très tôt où tu dis mais comment il va garder les pieds sur terre, quoi.
Exactement. Et ben, la chance que j'ai eue, c'est que moi je suis en contact direct avec les clients.
Ouais.
Tu vois, je passe de table en table et puis les. Voilà, mon terrain de jeu, voilà, c'est 40 couverts le soir. Donc, quand tu passes devant un client, tu viens manger, par exemple, un soir, puis tu me dis, bah, tiens, oui, bonjour, chef. Bon, ça, j'ai pas trop compris, ça, j'ai pas aimé. Donc, il fallait que j'encaisse ces choses-là. Mais j'en ai fait une vraie arme parce que je me suis dit, en fait, tout est là. La vérité, elle est là. Parce que le seul et vrai juge, ça reste quand même le client.
Tu sais que c'est quelque chose... Alors que toi, tu as peut-être toujours vécu, ou en tout cas, à partir d'un moment où tu as été chef et où tu vas voir les gens, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau d'avoir un boulot public. Dans le sens, enfin, une partie de mon boulot, qui est ce podcast,
ouais.
Jusqu'à pendant presque 15-20 ans de travail, moi, les seules personnes qui jugeaient mon travail étaient mes clients, en fait. Tu vois.
Ouais.
Donc, c'est pas public, c'est entre quatre yeux, dans une salle de réunion, avec peut-être de temps en temps des clients qui te mettent la pression, des gros clients, des beaux noms. Mais c'est pas public. Et aujourd'hui, la pression que tu as là-dessus, je la découvre un petit peu. Et c'est vrai que c'est traumatisant quand même d'avoir quelqu'un qui dit ouais, ce truc c'était pas terrible, franchement, en plus c'était moche, non?
Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ça, mais faut savoir l'écouter. Au contraire, je pense que c'est plus nous aider, parce que alors souvent, bon, après, quand il y a des, je dis toujours, quand il y a des critiques qui sont pas constructives, faut zapper, mais
quand
souvent,
tu te fais défoncer dans une critique, ça t'arrive, j'imagine, ou ça t'est arrivé?
Oui, alors attention, parce que nous, alors ça c'est encore, enfin je dirais que c'est un autre débat, notre métier est vraiment difficile parce que tout le monde peut juger et critiquer. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une explosion de personnes qui effectivement jugent, créent des blogs sur Instagram et compagnie. Enfin, je pense que les vrais juges, tu sais, c'est qui ? C'est ceux qui sont midi et soir au restaurant. Midi et soir. Et souvent, j'ai remarqué, c'est une thèse, hein, souvent, ce que j'ai pu voir, ceux qui ont un palais éduqué, c'est souvent les clients qui sont notaires, qui sont avocats, qui sont médecins, qui sont, tu vois, qui sont écrivains, ils ont un un palais précis. Et vraiment, hein, ils sont journalistes, tu vois.
Culinaires.
Culinaires, parce qu'ils ont, ils ont vraiment un palais, tu vois. Et je le vois tout de suite. Tu sais, aujourd'hui, pas plus cliché.
T'es devenu sélectif. Ouais, si tu veux, attention, hein, tu dis t'es devenu sélectif.
C'est pas que je suis devenu sélectif. Non, mais c'est que parfois, par exemple, j'invite un journaliste critique gastronomique. Ouais. J'invite un, mais qui ont un âge 60, 65, ouais. Tu vois, mature. Parce que c'est ça qui m'intéresse.
Oui, parce qu'ils sont dans la vérité. Comparaison aussi.
Et j'ai extrêmement évolué. Ma cuisine a extrêmement évolué grâce à eux.
D'accord.
Parce que j'ai pas essayé de faire une cuisine pour des amateurs. Je fais de la vraie cuisine. Et quand tu fais de la vraie cuisine, ça touche tout le monde. Il n'y a pas à discuter. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme lire un beau livre. Tu vois, les mecs, tu dis, waouh, y a...
Mais qu'est-ce qu'il dirait à Kram à 14 ans qui débarque chez toi là maintenant?
Qu'est-ce qu'il dirait?
Ouais, il comprendrait pas.
Oh là, je sais pas. Vraiment, je pense que, tu sais, aujourd'hui, ma cuisine n'a jamais été aussi proche d'une vérité qui est de ma personnalité, en fait. C'est tout le parcours que, en gros, j'ai pu avoir dans ma carrière. Si tu veux, ça m'a construit. Ça m'a forgé et ça a fait aujourd'hui la personnalité et l'homme que je suis, tu vois.
Ouais.
Donc voilà. Et par moments, tu vois, tu peux avoir des moments de doute. La cuisine, tu sais, aujourd'hui, malgré tout, avec Instagram, la cuisine est devenue hyper Instagrammable.
Ouais. C'est très beau d'ailleurs ce que tu fais.
Merci. Mais il faut pas que ça soit juste beau, que ce soit bon.
Bah bien sûr.
Tu sais, je dis souvent aux jeunes, attention, faut cuisiner.
Non, mais j'avoue qu'en plus, t'as quand même ce moment où quand t'es en train de déjeuner dans un bel endroit. Récemment, j'ai eu la chance de venir chez toi, donc je le disais tout à l'heure, je suis allé aussi au Grand Véfour où j'ai fait 2-3 bons restos. Grand Véfour, c'est plus classique, c'est moins beau, mais quand t'es avec cet instant où t'es autour de la table où tout le monde prend ce plat en photo, t'as envie de dire non mais les amis, kiffez un peu quoi, juste faites-vous plaisir, profitez de l'instant, etc.
Ouais, bien sûr.
Et mais chez toi, j'ai pas résisté parce que vraiment c'est un truc de fou, la beauté de.
Faut que ça soit, ça c'était Brillat Savarin qui disait, faut que ça soit beau et bon. Pour qu'un plat soit, soit bon, faut qu'il soit beau aussi, c'est les deux. Mais c'est pour ça que j'en parle souvent, tu sais, la cuisine elle a beaucoup changé. Il faut faire attention aux influences aussi, de ne pas se faire influencer, avoir sa propre identité. C'est hyper compliqué, tu vois, c'est très 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 complexe. Souvent on veut être dans la mode, aujourd'hui on est dans le lifestyle, mais je crois pas, il faut rester tu sais, il y a toujours une limite, une ligne rouge. Si tu restes là-dedans, c'est tu vas gagner le marathon. Sinon, tu ne feras que gagner le sprint.
Ouais.
Et par la suite, c'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est dans mon parcours, si tu veux, quand j'étais entre les deux, je me disais, il y avait Gagnère, Ducasse. Maintenant, bon, Ducasse, c'est un ami. J'ai jamais travaillé pour lui, mais on est très proches tous les deux.
C'est vrai.
J'ai beaucoup d'admiration pour lui, comme lui, il en a pour moi. Enfin, on
tu
est
as
vraiment...
écrit un livre, hein, d'ailleurs, qui est édité par le...
Par Ducasse, ouais, qui a été édité par lui. On n'a jamais... Enfin, j'ai jamais travaillé pour lui, mais il m'apporte beaucoup. Je lui dis aussi...
Tu vas me faire venir ici, alors.
Ah oui, bah écoute, ouais, avec plaisir.
Ah exactement. Bah alors.
Ouais, pourquoi pas.
Je te prends mot.
Ouais. Et si tu veux, c'est quelqu'un, quand je passe du temps avec lui, j'apprends aussi, parce que tu vois, il a pu faire beaucoup d'erreurs. Il est passé par plein de chemins. Il a dû se battre beaucoup pour pouvoir faire sa place. C'est pas tous les jours facile, c'est vrai. Mais là où je suis très très fan et je trouve que il a tout fait avant tout le monde. Tu vois, le fait d'avoir par exemple la réinsertion de femmes de quartier, c'était le premier il y a 10 ans. Et encore aujourd'hui, c'était le premier à avoir des femmes dans tous ces restaurants qui venaient de cité. Il leur a donné un emploi, un diplôme. Il a une école à Manille pour des enfants de la rue. Mais tout ça, il en parle jamais, tu vois. Mais ça, c'est quelqu'un qui a une vraie admiration pour ses salariés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas... que pour avoir que des restaurants, c'est se dire voilà, on emploie tant de personnes, tu vois. Après tu dis je fais du bien.
Ouais,
je pense que c'est ça aussi.
Mais c'est intéressant parce que c'est un type qui, ouais, donc tu le dis, très inclusif avec son équipe et qui est très, alors, art, cuisine, goût, quelqu'un d'extraordinaire, un talent monstrueux, okay. Et à la fois très business aussi. Je veux dire, moi, la première fois que j'ai dîné dans un Ducasse, c'était à Las Vegas, quoi. Ouais. Et après, tu vois, il y en a, enfin, il a des, je dirais, des points de contact. On peut aller dans des Ducasse un peu partout dans le monde, dans des endroits surprenants, dans tous les sens du terme. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et je crois que vous avez un petit peu ça en commun.
Oui.
Dans le sens où c'est là où je voudrais que tu me racontes quelques petites choses, parce que j'aimerais comprendre comment tu peux être artiste, je sais pas, en tout cas chef cuisinier, avec une part d'artiste, à la fois entrepreneur, manager, comment tu peux être bon dans tout ça, qui sont des métiers tellement différents, comment, où est-ce que tu te fais épauler, est-ce que t'es un bon businessman, est-ce que t'es, tu vois, enfin, voilà.
Tant de questions,
ouais,
je vais
ouais.
t'y répondre, eh ben, c'est très bonne question d'ailleurs. Écoute, être cuisinier aujourd'hui, je pense qu'il y a deux choses, soit tu décides d'être que dans ta cuisine, dans ton restaurant, faire, tu vois, midi soir ton restaurant, mais aujourd'hui, tu sais, l'époque a changé, elle a beaucoup changé. Il y a une concurrence qui aujourd'hui, et ça je l'ai dit il y a 5 ans, elle n'est plus nationale, elle est internationale. C'est-à-dire Totalement. Qu'on va comparer ton restaurant à un autre restaurant à New York, un restaurant à Londres, un restaurant à LA, à Miami, enfin bon, voilà. Donc c'est-à-dire que le champ de comparaison, il a explosé.
Ouais.
À l'époque, tu avais que la France, qui était un pays où tu avais les plus belles tables du monde. Et elle y est encore. Sauf On qu'aujourd'hui... Et ça, je le dis, il n'y a pas qu'en France où tu manges super bien.
Ah oui.
Ah oui, oui, bien sûr, parce que à chaque fois, quand tu vois, je te parle des capitales. Hein. Et à l'époque, en France, c'était les gens partaient de Paris, faisaient les routes, tu sais, ils descendaient à Bordeaux, faisaient Bordeaux, enfin bon, Lyon, enfin bon, voilà. Et donc, toutes ces villes-là, si tu veux, il y avait toujours des étapes, des tables, des auberges
ouais.
qui, par la suite, c'est devenu des très grands restaurants qui ont eu 3 étoiles, bon, voilà. Et ces restaurants-là n'étaient que nationales. La concurrence a été que nationale,
ouais.
tu vois. Après, il y a un engouement aujourd'hui dans la planète, sur le food,
ouais.
qui est incroyable.
Oui, et puis tu en parles là, c'est-à-dire que tu dis même des capitales, mais en fait, tu vas à Chicago, tu vas à Saint-Louis dans le Missouri, tu vas à Bakou,
ouais.
tu vas trouver un Akram, c'est ce que tu disais tout à l'heure.
Mais alors attends, parce que pourquoi je te parle de ça ? Parce que c'est une vraie force économique pour un pays.
Ouais.
Les gens aujourd'hui, quand ils voyagent dans une capitale, ils veulent d'abord avoir la sécurité, et la première chose qu'ils te disent, c'est on mange bien.
Ouais.
Tu vois, quand tu dis on mange super, on parle même plus d'hôtel, on va te dire on mange bien. Et en troisièmement, ça va être bien évidemment l'hôtel, enfin tout ce qui va autour, c'est-à-dire le côté loisir.
Mm.
Mais la première chose, ça a toujours été la sécurité, et ensuite la gastronomie. Tu dis toujours, tu vois, en Italie, je suis allé. Quand on me dit, tu vois, en Italie, tu t'arrêtes dans n'importe quel truc, tu manges super bien. Au Portugal, tu t'arrêtes dans n'importe un petit bar et tout, tu manges super bien. En France, tu descends aujourd'hui dans la rue et on prend, tiens, au pif, là, en bas de la rue, je te dis, tiens, on va manger là. On n'est pas sûr de bien manger.
En Angleterre, c'est moins vrai.
Et voilà.
À Londres, tu manges bien. Non, je vais me faire,
voilà.
Je vais
non,
me
mais c'est vrai.
Par mes amis,
tu vois, mais non, c'est pas ça. C'est que si tu veux, bon, tout ça fait que quand tu mets bout à bout, il y a quand même une évolution à échelle mondiale aujourd'hui dans le food, et tout le monde investit là dans le food. Et qu'est-ce qu'on voit dans le marché aujourd'hui de la restauration ? Des jeunes brillants, quand je dis brillants, qui ont fait des études de commerce,
bien sûr.
HEC, qui sortent et qui ont vraiment compris notre métier. Le mécanisme, comment optimiser, comment gagner de l'argent, comment savoir s'entourer.
Comment faire du marketing,
et comment
sourcer ses produits. J'ai eu, alors, sur ce podcast, Tigran Seydoux,
voilà.
Le patron de Big Mama Group, donc clairement HEC, etc.
C'est ça. Eux, à mon sens, c'est l'exemple parfait que les cuisiniers devraient se dire c'est nos concurrents aujourd'hui.
Oui, ou clairement. Alors faut s'associer avec eux d'ailleurs, hein, mais
oui, c'est, mais c'est... pourquoi nous on n'y est pas arrivé? C'est ça le problème, c'est-à-dire que nous en fait
il y arrive, il y en a qui y arrivent.
Oui,
il
y en a qui, oui, mais qui arrivent, mais pas dans le même. Eux, ils ont compris la mécanique, si tu veux. Ils ont fait des études d'abord, parce que les études de commerce, c'est qu'on t'apprend à compter, on t'apprend à créer et à dire, ok, ce verre-là, je sais comment lui donner de la valeur. Nous, notre métier, on cuisine, on est des vrais artisans, oui. Mais toujours, on voit pas les choses beaucoup plus grand. Se dire, mais qui mieux qu'un cuisinier? Hein, pour pouvoir créer des concepts, pour pouvoir ouvrir et s'ouvrir vers le monde. Parce qu'il va savoir, lui, enfin le cuisinier va savoir comment magnifier la matière pour lui donner un vrai sens. Après, c'est sûr que nous, les cuisiniers, on ne sait pas comment s'entourer, avec comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire un kunyaman, par exemple, tout bête. Comment savoir le marketer, le développer, tu vois, et surtout eux ce qu'ils savent faire, c'est que moi quand j'ouvre un restaurant, si tu veux, je vais à la banque, j'ouvre un restaurant, ou je me débrouille, j'ouvre un restaurant, j'ouvre mon tiroir caisse, et ben t'as 0 franc dans le tiroir caisse, hein. Moi chaque restaurant que j'ai ouvert c'était comme ça.
Oui,
alors je t'explique, aujourd'hui ben je le ferai plus, tu vois, parce que je me dis que en fait faut plus faire de cette manière là aujourd'hui, faut être il faut quand on est sûr de soi, quand on est un bon cuisinier et quand on a des idées bien précises de là où on veut aller,
ouais.
Je pense qu'il faut savoir s'entourer, d'avoir un bon directeur financier dès le départ, avoir une équipe de marketing. Toi, tu es le cuisinier, tu es l'artiste, comme ça, eux, ils gèrent le truc. Et surtout, d'avoir une levée de fonds qui se fait sur, on va dire, les 10 ans pour dire, voilà, moi, je fais le gastro, je crée ce concept-là, là, là. Et voilà, moi, j'ai ouvert le tiroir caisse, tu vois, il y avait 0. Alors, quand je fais des conférences, tout le monde me dit, oh, quel parcours, c'est incroyable, c'est vrai. Tu vois, ça a été très, très dur. Tu vois, quand il y a, par exemple, quand... il y a les attentats ou qui s'est passé en 2015, malheureusement, tu vois, ça nous a extrêmement affecté. Là aujourd'hui, les gilets jaunes, ça nous a extrêmement affecté. Donc si t'as pas des reins assez solides, bah tu peux déposer le bilan.
C'est vrai. Alors pour rebondir sur tout ce que tu dis, vous avez aussi plein de forces, notamment la passion de la cuisine, notamment des choses que tu sais bien défendre, qui sont
le terroir, mais justement.
Exactement, et l'innovation là-dessus. Enfin, je veux dire, les concepts marketing, c'est pas aussi simple. Je veux dire, quand t'as fait une école de commerce, tu peux pas faire tout ce que tu fais toi, parce que toi, t'as 10 ans, 15 ans, 20 ans de métier. Donc, aujourd'hui, t'as tes partis pris, ils sont assez clairs. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que à la fois, t'intègres tout ça, le business, les réseaux sociaux, t'es moderne dans ton approche, t'es capable de te relancer, de faire un certain nombre de choses, et à la fois, t'es pas dans le creux de la vague. Dans le sens où tu suis pas le mouvement, on a l'impression quand même, alors excuse-moi, hein, peut-être un peu de flagornerie, mais je suis pas là pour te flatter, mais que tu le précèdes quand même. T'es pas dans un moment où t'es complètement dans la tendance, tu vois.
Mais non, pas du tout, je garde les pieds sur terre. Mais tu vois, moi, le dialogue que j'ai souvent sur justement les cuisiniers qui collaborent, mes amis, tout ça, qui travaillent à mes côtés,
ouais.
Je leur explique tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui,
je fais signe à Akram de parler dans le micro.
aujourd'hui, si tu veux, à mon sens, je pense que il faut savoir valoriser son travail. Tu vois, valoriser. Pour moi, c'est ça. Et valoriser, c'est de dire, j'ai vu tellement de grands restaurants tous les ans galérer. C'est pas normal. C'est pas normal, si tu veux. Pourquoi c'est pas normal? Parce que ceux qui devraient, au contraire, quand quelqu'un fait l'artisanat du diamant, par exemple, ouais. Quand on fait des bijoux, le diamant et tout ça, ils ont su donner de la valorisation. Les sacs à main. Tu vois, les grosses marques et tout ça, ont su donner de la valeur à l'artisanat à échelle mondiale. Nous, les cuisiniers, si tu veux, c'est en train d'arriver, mais le marché n'a pas été pris par les cuisiniers. Il a été pris justement par des investisseurs qui ont su bien s'entourer. Et qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent les cuisiniers comme consultants.
Ouais.
Alors que l'idée même, l'idée, et ça c'est des amis à moi, hein, qui disent ah, tu te rends compte, ils ont fait ça, je dis mais t'aurais pas pu l'idée, ouais mais je savais pas comment faire. Mais oui, c'est mais ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas le chemin
pour aller faire ça. L'idée, c'est se faire accompagner.
Exactement.
Et alors, d'ailleurs, je précise, parce que je ne sais pas quelle est votre relation, mais ce podcast est notamment rendu possible grâce à Olivier Gouin, que j'ai invité sur ce podcast, excusez-moi pour cette auto-promo, mais un très bon épisode si vous ne l'avez pas entendu, et quelqu'un avec qui j'ai noué des liens et je suis quelqu'un de très humain, une très belle personne, Olivier, je suis sûr que tu vas nous écouter, donc voilà, je t'embrasse. Et
moi aussi.
Voilà, et vous avez une relation un peu particulière, hein,
absolument,
je crois.
Absolument, ouais. Alors tu sais, Olivier, pareil, ça a été l'une de mes plus belles rencontres, vraiment, parce que il arrive au bon moment, aujourd'hui c'est mon associé, au bon moment de ma structuration d'entreprise et d'arriver à enfin que ma vision que j'avais toujours eue dans ma tête, si tu veux, qu'elle puisse y arriver.
Ouais.
Et pourquoi je te parle de ça? Parce que, si tu veux, j'ai fait pas mal d'erreurs avant où j'ai grandi, mais sans me structurer à la base, tu vois.
Ouais.
Et ça a été aussi une belle leçon de vie, tu vois. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais la mécanique qu'il faut. Si tu veux, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai fait ma petite tambouille, si tu veux, cette cuisine-là, pour comprendre... comment fallait faire. Aujourd'hui, je sais ce qu'il fallait que je fasse avant, mais ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour arriver à là où je veux aller. Et ça, c'est hyper... moi, je sais que moi, j'ai 37 ans et je me dis aujourd'hui, je suis dans un tournant dans ma vie où c'est maintenant, quoi. Parce que j'ai la chance d'avoir un background, tu sais, hyper dur, où j'ai pas mal d'expérience et pas mal appris sur beaucoup de choses. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, voilà, on a structuré et Olivier justement va m'aider. À ça, et voilà, et en plus ces conseils sont vraiment vraiment, tu vois, hyper importants.
Je confirme, voilà. C'est quelqu'un de brillantissime, un des entrepreneurs qui m'a le plus impressionné sur ce podcast. L'essor d'Akram, vous aurez entendu ça en 2019 sur Génération Do It Yourself, vous vous en souviendrez quand dans 10 ans il nous regardera tout là-haut.
J'espère, non, je resterai toujours les pieds sur terre. J'espère que je pourrai recevoir un bon nombre justement
de mes auditeurs,
de tes auditeurs. Ouais. Mais tout ça pour dire que, tu sais, on fait un métier formidable.
Et je tiens à dire quand même que si vous lui dites que vous venez de la part de Génération Do It Yourself, vous aurez le café offert dans la formule.
Bon, allez.
De toute façon, il est déjà dans la formule.
C'est bon, voilà, exactement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je regarde avec beaucoup d'intention notre métier, cuisinier, tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, être que cuisinier ne suffit plus. Tu vois, tu disais plusieurs casquettes. La dernière fois, je faisais une réunion avec mes collègues et qui me disaient, il faut avoir Instagram, il faut avoir Pinterest, Tu te rends compte toute cette multitude de choses qu'il faut avoir aujourd'hui, la casquette qu'il faut avoir, il faut savoir parler anglais, il faut être bon cuisinier, il faut sortir en salle, il faut savoir...
T'as combien de collaborateurs ? T'es entouré, il faut les meilleurs autour de toi, t'as pas le choix.
Aujourd'hui, oui. C'est ça. Alors, c'est très bien que tu me dises ça, parce que j'ai fait ces erreurs-là aussi à l'époque. J'ai pris des collaborateurs qui, non pas qui n'étaient pas compétents, mais qui n'étaient pas aptes à voir la vision que j'avais. Et au début, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas comme ça. Tu t'entoures de bonnes personnes et surtout, il faut savoir écouter.
Oui.
C'est-à-dire que moi, tu vois, je suis quelqu'un qui veut, au contraire, alors je resterai toujours le décisionnaire, si tu veux, mais d'écouter.
Mais bien sûr.
Et savoir que quand tu es en face de quelqu'un qui t'écoute, tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment un homme très très bien qui est mon directeur de groupe. C'est une personne, tu vois, qui est beaucoup plus âgée, qui a 52 ans, qui est directeur financier Alexandre Saint-Georges, qui était à l'époque directeur financier du groupe Weiwei, qui aussi est venu donc nous rejoindre. Et je suis très très content. Mais tu vois, aujourd'hui, quand on décide de faire un projet, Je fais pas comme ça. J'y allais, vas-y, je vais faire un restaurant. Ah, on y va. Avant, j'étais un peu comme ça. Tu faisais comme ça, puis à l'arrache.com. Et puis au final, bah, tu te rends compte que c'était pas la bonne. Mais il fallait que je passe par ça. Je voulais en quelque sorte essayer pour voir en tant que cuisinier quelle était jusqu'où je pouvais aller, où est-ce qu'elles étaient mes limites.
Ouais.
Et aujourd'hui, j'ai inversé la tendance. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, je suis structuré, c'est stable. Moi, mon but, justement, c'est d'être le créateur, celui qui va faire en sorte que toutes les autres unités puissent fonctionner et qu'il y ait une rotation de cartes et que ça change tout le temps et qu'on soit toujours... Parce que la vraie innovation,
ouais,
c'est pas dans le nombre de restaurants que j'ouvre, c'est dans l'assiette. C'est la capacité à avoir à changer autant de fois. La tendance aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que tu changes tout le temps et t'es jamais rattrapé justement par cette routine et c'est toujours juste, tu vois.
Ouais.
Et ça s'appelle l'expérience du goût. Et donc, je l'ai acquis avec le temps, tu vois. Donc, je sais. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est quand je suis dans mes restaurants, moi, je déjeune et je dîne dans mes restaurants. Et je prends plaisir, par exemple, si tu
donc
es
avant,
au restaurant.
Avant le service, pendant ?
Non, pendant le service.
Ouais.
Et je prends plaisir, par exemple, si demain, on ne se connaît pas, je te vois déjeuner ou dîner dans le restaurant. Et là, j'observe chaque client,
ouais,
comment ils dégustent, comment ils prennent leur couvert. Je suis obsédé par ça, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, c'est des laboratoires d'observation. Et j'en fais ma propre opinion. Et du coup, je vois ce que les autres ne voient pas. C'est pour ça que je dis toujours, je sens les choses. Et dans la cuisine, c'est pareil. Tu vois, j'ai fait la dégustation avant-hier de mon restaurant Shirvan, place de l'Alma. On va changer la carte. Il y avait des trucs que le cuisinier ne voyait pas. Donc, avec lui, on a bossé sur les ingrédients, on a bossé sur les choses. Et pouf, ça se transforme, tu vois. Et ça, je crois que c'est vraiment... c'est ça, mon rôle.
C'est génial.
C'est ça, mon rôle, tu vois. C'est pas d'être derrière un bureau à regarder. Moi, je veux pas... Même, je vais te dire, ça m'angoisse, tu vois.
C'est pas mon rôle. C'est chacun son métier. Normalement,
son métier.
Ton directeur de groupe, il est meilleur que toi pour tout
ça. J'ai pris meilleur. Et j'ai pris des personnes qui sont là pour me dire les choses. Écoute, t'as crabe. Non, ça... Ok. Pas de problème.
Et j'ai fait un podcast avec Nicolas Paciello, qui est un chef pâtissier qui est au Prince de Galles.
Ah oui,
super épisode. Je crois aussi nous écoutera et je t'embrasse, Nicolas, aussi, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé contact.
Je connais aussi. Bonjour, Nicolas.
Et du coup, il me racontait à quel point c'était dur. Vraiment, on sentait la tu sais, ce truc dur de pendant ces années avant de devenir chef. Dans ton parcours comme ça, est-ce que c'est juste parce que ta manière de le vivre, je le ressens pas quand on échange comme ça.
Je vais te dire, être chef, c'est le décider. C'est une décision.
Mais pour y arriver, les années, la qualification.
C'est une décision. Si tu veux être chef à 20 ans, tu peux être chef à 20 ans. Voilà, terminé.
Vous verriez qu'il a devant
non,
moi là.
Non, mais c'est une décision. C'est pas parce que moi je vais te dire. On nous a appris.
Oui, mais il y a du travail derrière. Tu le décides, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais moi, j'en ai déjà parlé. Je connais des gens qui disent je vais avoir du succès, ils l'ont décidé, et derrière, ils font rien. Donc, ça marche
pas. Mais ça marche pas, oui. Mais sauf que c'est un métier où plus jeune tu démarres, plus vite tu rattrapes et tu as une expérience acquise. Parce que tu sais, quand j'ai décidé d'être chef à 22 ans, j'avais pas toutes les bases. Mais j'ai appris.
Ouais.
J'ai consulté. Parce que c'est là, dans ces moments-là, que tu vas lire les livres, que tu vas commencer à regarder, que tu vas commencer à te renseigner, que tu vas... C'est ça, en fait. Et après, tu apprends, et tu apprends, et tu apprends. Et des années, tu te forges, tu te sculptes. L'être humain est une belle pierre qui se sculpte toute sa vie. Et quand je te disais... En fait, c'est le seul métier où tu peux même être chef à 18 ans. Il n'y a pas de limite.
On est d'accord que chef, ce n'est pas qu'un titre. Chef, ça veut dire que tu n'es pas chef de toi-même. Donc, tu as une équipe.
Chef leader.
Et comment t'es chef à 22 ans avec des gens qui sont probablement plus vieux que toi ou qui... c'est pas compliqué, ça?
C'était très compliqué, surtout que moi, le restaurant qui était ouvert à Luxembourg, c'était à Espérance, il s'appelait Opium.
Ouais.
C'est un restaurant qui était d'influence chinoise et influence française. Donc j'avais deux cuisines dans une même cuisine.
D'accord.
Séparées. T'avais les Chinois à gauche et les Français à droite. Donc quand tu vas faire marcher un filet de bœuf avec des nouilles sautées, avec des gambas par exemple, hein, qui sortent en même temps, ou une soupe au vermicelle avec, par exemple, un foie gras poêlé. Vas-y, il fallait faire sortir. Et ça a été... Je me suis planté des fois, je voyais les bons sortir, on faisait 200, 300 couverts. Je voyais les, tu sais, il y avait l'imprimante qui ça sortait jusqu'en bas. Je savais même plus comment. Et là, t'es là, donc là, tu respires et tu gères. C'est là en fait le vrai truc, c'est-à-dire que tranquille, sans se prendre la tête, tu vois. Ouais. C'est là, il faut que tu canalises les choses et bam, bam, bam. Et après, c'est là que t'apprends, tu vois. Et aujourd'hui, par exemple, quand je sers un plat, j'ai dans ma tête ta table tout de suite sans besoin de regarder le bon. Je sais que dans 5 minutes, tu l'auras fini, donc on démarre déjà le plat. Brrr, tu vois, c'est comme une horloge, tu vois, ça, ouais, ça roule. Et voilà, mais tu vois, c'est pour ça que je disais, c'est le chemin d'une vie. C'est vrai que c'est très dur quand on veut devenir un chef, c'est très très dur quand on veut y arriver. Mais en fait, il faut, moi je crois que oui, être de si on veut être chef, c'est une décision. Tu vois, il y a pas de, il faut assumer. Il faut assumer les responsabilités, il faut assumer d'être un leader. Et puis l'expérience s'acquiert aussi on peut être autodidacte,
ouais,
et être un très grand cuisinier. Ça, j'y crois aussi, ouais, tu vois. Parce que moi, je connais un restaurant qui s'appelle Table, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Bruno Verjus. Un gars qui a eu une étoile, un mec super. Il a une plume incroyable. Il était blogueur à l'époque. Il a ouvert ce restaurant. Et franchement, purée, le gars, il envoie du lourd, tu vois.
Ça s'appelle comment, tu m'as dit ?
Ça s'appelle Table.
Table, ok.
Et si, voilà. Et c'est un autodidacte, mais je crois que c'est, pour moi, certainement, la plus belle bibliothèque de produits, de savoir-faire, de il a la connaissance des produits comme personne. Comme personne. C'est-à-dire que c'est une bibliothèque de produits. Il sait tout sur le poisson qui vient de là, la morue qui vient d'ici, l'échalote qui vient de là. Il a un panel de justement de maraîchers, de gens comme ça. Et je trouve que c'est vraiment formidable. C'est pour ça que je dis un autodidacte peut être aussi cuisinier.
Et t'as jamais vécu, t'as quand même un background que tu viens de nous expliquer de alors pas d'autodidacte, t'as appris la cuisine hein, dans les règles de l'art, mais non scolarisé une partie de ta vie, etc., dans un milieu qui est très franchouillard, pas tant que ça.
Jamais connu ça, jamais
tu t'es senti te dire...
Je me suis senti, parce que c'est savoir se sentir qui on est, je suis senti français, terminé, point barre. Alors ça, c'est des... Tu vois, souvent, on me sort ce sujet-là. Genre,
non, je te le demande parce que c'est...
En fait, vraiment, hein, je te dis honnêtement, hein, j'ai jamais, jamais senti ni une forme de racisme, ni une forme de... C'est... je pense que moi, je suis un... Tu sais, je suis un
fonceur.
Un fonceur, ouais. Un TGV. Donc, j'avance. Je reste pas... J'ai jamais eu ces... Le talent, c'est une arme.
Ouais.
On pourra tout critiquer. On n'empêchera jamais les gens de critiquer, de dire des choses. Mais quand t'es devant ta poêle ou devant ton fourneau en train de cuisiner et que tu...
Toi, tu t'en fous, t'as bûché, toi.
Ouais, je m'en fous. Et puis, j'ai jamais eu de ça. Faut être fier, au contraire. Parce que, tu vois, faut pas le prendre comme un reproche. Je pense surtout que, tu vois, c'est ce que je disais, en France... on a trop tendance à pointer du doigt ces choses-là, et ceux qui se sentent pointés du doigt, se referment, se crispent, tu vois. Ouais. Moi, je pense qu'il faut passer outre tout ça. Il faut être, au contraire, faut prendre beaucoup plus de hauteur et prouver aux gens que par son travail, qu'en fait, tu vois, tout s'efface. D'où tu viens, les origines, la religion, tout, par rapport à ton travail.
Et
c'est ça.
Et justement, alors, tout s'efface. Je vois que tu défends énormément la France et même les produits français, la cuisine française, et il y a quelque chose où en tout cas, pour l'instant, tu essaies de rester sur des inspirations très françaises. Ce passage ou ces origines algériennes, c'est pas des choses qui reviennent dans ta cuisine ?
Non, il y a un peu des influences, on va dire, d'épices. Hein. Tu sais, j'ai découvert une chose, je me suis dit que la vraie cuisine la plus étrangère qui existe dans le monde, c'est bien la cuisine française. C'est très drôle, hein. Et c'est vrai, parce que elle est remplie de détails. Quand tu lis les livres, si tu veux, ouais, mais vraiment, hein, tu vois, alors, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que... il y a, tu vois, tout ce qui est ragoût, les mijotés, tu trouves ça un peu partout dans le monde entier, tu vois, les consommés, tout a un lien avec tout ce que j'ai pu goûter à travers le monde. Et pour ce qu'il en est de ces influences, et effectivement, on a des influences, mais j'appellerais plus ça de la route de la soie, qui est le restaurant Shirvan, place de l'Alma, qui lui fait vraie bonne cuisine. Vraiment, c'est délicieux. Si un jour, tu as le temps, vas-y, va voir. C'est vraiment chouette. Alors, ce restaurant, pourquoi ? C'est un concept. Tu vois, encore une fois, je pense concept. Pourquoi ? C'est un restaurant de partage. J'ai été le premier à le faire il y a maintenant bientôt 3 ans. Et par la suite, c'est très drôle, j'avais senti le vent venir. Je me suis dit, la cuisine ethnique, ça va être un peu l'avenir. Tu vois, la cuisine de légumes, de céréales cuits dans les fours tandoor, où tout se partage, où en fait on voyage, tu vois. On sort de ce contexte un peu, les restaurants qu'on a pu voir pendant pas mal d'années. Ça crée une diversité aussi pour ces restaurants où on mange des sushis, où on mange des sashimi. Donc, c'est une alternative par rapport à ça. Et donc, j'ai créé ce premier concept qui s'appelle Shirvan.
D'accord.
Et par la suite, donc, il y en a eu plein d'autres qui ont ouvert. Il y a eu Balagan, il y a eu Braque.
Oui, bien sûr.
Qui ont un peu le même ADN. Mais nous, on a été le premier.
D'accord.
Voilà. Mais ce restaurant, c'est un vrai restaurant, c'est-à-dire que tu vois, la cuisine a été recherchée et c'est vraiment délicieux, tu vois. C'est addictif presque, tu vois. On cuit les pains dans le four tandoor, on fait des pains maison, on n'utilise que de la farine bio. Enfin, tu vois, on a fait un travail vraiment de style aussi sur la présentation.
Je vais tester ça. Je suis pas aussi bon palais que toutes ces personnes que tu décrivais tout à l'heure, mais
je suis pas de bon ou de mauvais palais. C'est bon ou c'est pas bon, hein.
C'est vrai.
Hein
comment justement, alors sur ce travail d'inspiration et dans ta cuisine, t'as des vagues. Je veux dire, j'imagine, mais comment elle évolue ta cuisine par quoi ? Est-ce que dans 5 ans, elle sera complètement différente ? Est-ce qu'il y a des moments où tu vas dire, tiens, là maintenant, je vais faire du mexicain parce que ça me fait triper ?
Non, là, je focus. J'ai donc le restaurant Akram, là où je suis tout le temps. J'ai créé ce concept Shirvan qu'on va développer.
Oui.
J'ai les 2 ateliers vivants d'art qu'on va fermer et on essaie de trouver un endroit beaucoup plus gros, beaucoup plus grand pour faire un seul gros vivant d'art.
D'accord.
Et là, j'ai créé dans le même ADN que Atelier Vivant d'art, Vivant d'art Burger. Donc on est sur le burger. Donc je suis le je suis content parce que je suis le premier chef à faire à m'attaquer au burger tout seul. C'est-à-dire que là voilà, on a créé un vrai beau concept.
OK.
Tout simple. Simple ou double, terminé avec de la viande, pain brioché. Il y a tous les gestes du cuisinier, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était que ce burger, comme moi, je le cuisinerais pour mes enfants. Tu vois, pas compliqué, très simple. Mais que tu vois qu'au microplane, je sais pas si tu vois, c'est la râpe comme ça, on va râper le fromage comme ça. Tu vois, il y a tous ces gestes de cuisinier qui sont hyper importants pour moi.
Tu fais tout toi-même, hein, le pain, j'imagine.
Qu'on va aller voir. Alors, le pain, on le fait pas sur place, mais on le fait ailleurs et puis il vient, mais c'est un pain spécial.
D'accord.
On l'a travaillé. C'est pas un pain, c'est une brioche.
Ouais.
Donc, t'as un burger qui est complètement beaucoup plus aérien.
Ouais.
Beaucoup moins, tu vois, lourd.
C'est déjà
et c'est délicieux. Et c'est délicieux. Franchement, c'est délicieux. Tu vois, moi, d'accord, j'adore. Tu vois, c'est. Alors, pourquoi je m'attaque au burger, tu vas me dire ? Parce que je crois que le burger, c'est tu peux pas l'enlever. Tout le monde adore ça. Quand t'es pressé, tu prends un petit burger. Et surtout aujourd'hui les personnes, les clients, le consommateur regarde attentivement ce qu'il consomme.
Ouais.
Les problèmes de tu sais, ils sont malades, ils sont toutes ces maladies, tout ça. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on apporte ? On apporte une qualité et je dirais un label, parce que c'est moi qui choisis les produits, donc je fais attention à tout. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire trop compliqué. On a fait juste un très bon pain, une très bonne viande, une très bonne salade et une très bonne sauce, terminado.
Et puis un goût vous apportez, évidemment.
Et des frites maison.
Ah, bon, alors voilà. On viendra goûter ça.
Avec plaisir.
il faut quand même que je revienne sur ce moment de ta vie où tu t'es pris une belle gamelle. Alors tu disais tout à l'heure hein, que t'as appris et tu citais Nelson Mandela, mais t'as planté une boîte, un resto, non? J'ai lu ça.
Oui, enfin, j'ai fait faillite à Tours.
À quel âge?
J'avais 26 ans, ouais, 26 ou 27, ouais, c'était ça, ouais. J'avais 27 ans, 27 ans.
Un resto
ans,
que t'avais ouvert juste avant?
J'avais ouvert sur place La Résistance à Tours, et c'était un restaurant qui, en fait, bon, pourquoi on a fait faillite? Parce que tout simplement...
Attends, avant, pourquoi t'as fait faillite? Pourquoi tu l'as créé? Comment t'as créé un restaurant à 25
à
ans?
À l'époque, Non, pas du tout. J'étais chef d'un restaurant à Courcelles de Touraine, à côté de Tours.
Ouais.
Par la suite, avec ce même propriétaire de ce château,
ouais,
je voulais, en fait, créer un restaurant dans la ville.
D'accord.
Voilà. Bon. Il s'avère que je voulais m'associer avec lui, on s'est associé et on a ouvert ce restaurant qui à l'époque s'appelait Le Trendy.
D'accord.
C'était un restaurant festif. Donc j'avais déjà cette vision de vouloir faire un restaurant beaucoup plus casual. Et ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que moi, bon, c'était lui qui s'en occupait de tout ce qui était finance et tout ça. Et on s'est planté parce que bon, aussi, il n'y avait pas la clientèle qu'il fallait à Tours. Il n'y avait pas assez de flux à Tours pour remplir un restaurant de ce type-là. Et puis voilà. Puis tu sais, ça aussi, ça m'a beaucoup appris, tu vois. Puis c'est peut-être, ça sera peut-être pas la seule aujourd'hui, si tu veux. Je pense que c'est pour ça, il y en avait un qui me disait, il avait créé 10 boîtes.
Ouais.
Il en a planté 8, 2 ont réussi. C'est comme ça que tu réussis. Il n'y a pas, tu vois.
La persévérance.
La ténacité ne rime pas forcément parce que... C'est-à-dire que la ténacité que sur une boîte. Tu dis, ouais, il faut que je tienne que là-dessus parce que on a toujours peur de se planter. Ce qui est normal, hein, on a toujours peur de se planter. Mais tu sais, quand t'es entrepreneur et quand tu joues ta vie, tu vois, c'est-à-dire que bon, quand même tes responsabilités à toi,
ouais,
que ce soit personnel, c'est quand même un certain engagement très très fort, tu vois. Aujourd'hui, c'est ce que j'explique aussi aux banquiers, tout ça, quand on veut faire son premier prêt pour faire un restaurant, ils te demandent des cautions à rallonge, où je trouve que c'est pas forcément aider l'entrepreneur. Déjà, il prend un gros risque déjà de sa part de pouvoir créer sa première structure, sa première boîte. Si par la suite il dort pas tranquille, il peut pas être productif. C'est pas vrai. Donc je dis pas l'engagement d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est d'être serein. Et je pense qu'en 2018, vraiment, tu vois, enfin 2019, pardon, être entrepreneur, c'est pas que c'est compliqué, c'est certainement plus compliqué qu'il y a 20 ans en arrière, tu vois ce que je veux dire,
ou
il y a
30
ans en arrière.
En tout cas, je sais qu'il y a un gros débat sur la sérénité, c'est-à-dire que c'est dur d'être serein et entrepreneur. Enfin, quasi presque. Hein. Moi, j'ai l'impression que les nuits blanches, ça va avec le métier d'entrepreneur, quand même, non?
Non, pas. Moi, je suis. Là-dessus, je suis assez serein. Tu vois, quand je me lève le matin, j'ai 150 problèmes à gérer, tout ça, mais tout se gère. Mais c'est vrai que, bon, tiens, prends par exemple là, les gilets jaunes en ce moment, les PME trinquent, c'est pas le banquier qui va dire, bah, il y a les gilets jaunes, on va vous aider, ou c'est pas. Tu vois, c'est là où est-ce qu'il y a un vrai problème, quand même, faut le savoir, et ça, j'ai expliqué ça la dernière fois à mes salariés, justement, et je leur dis souvent cette phrase que la réussite est collective, mais que la défaite est orpheline. Et c'est tellement vrai. Parce que voilà, tu prends tout, tu as toutes ces responsabilités-là, c'est-à-dire que demain, il peut se passer n'importe quoi. Là, par exemple, depuis le début d'année, y a les gilets jaunes, et c'est pour toi.
Ouais. Même les micro-défaites. Je veux dire, un client qui est mal servi dans ton métier comme dans le mien, c'est de ta faute.
Oui, exactement. Mais c'est
de ta faute. C'est que t'as loupé quelque chose dans
ton process.
T'as loupé
quelque chose. Voiturier qui parle mal au client quand il donne sa voiture, c'est de ta faute.
Ouais.
Si, par exemple, la réceptionniste a pas très bien parlé au client, c'est de ta faute.
Il n'y a rien de pire que les gens
qui se cachent derrière. Mais j'assume ces choses-là. Ça, je leur dis. J'assume tout. Mais prenez... C'est pour ça que je dis souvent aux salariés, soyez... à ma place. Ouais. Soyez aussi entrepreneur comme moi je le suis et vous verrez que demain, vous serez pareil parce que je leur parle souvent que eux aussi vont s'installer un jour.
Ouais, ouais. Mais ça se sent, je l'ai senti. Moi, j'ai vu des gens dans tes cuisines parce que c'est cuisine ouverte hein, chez Akram.
Oui, c'est
donc
ça,
moi,
ouais.
J'étais devant la cuisine, je voyais bien et on voyait les gens. J'avais l'impression de voir chacun en chacun
tâche,
un chef.
Oui.
Et
oui,
bien
oui,
un chef
ça.
Chacun.
Oui,
ouais.
C'est ça.
Et donc, c'est vraiment, on sent des gens qui prennent des responsabilités. C'est hyper beau.
Ils sont tous responsables et ça, pour moi, c'est hyper important parce que je suis un donneur de messages. J'aurais toujours dit, vous savez, aujourd'hui je suis là, demain je peux me planter, je me referai.
Ouais.
Vous voyez, en fait, j'ai ce vraiment, je pense que c'est un métier quand même assez fabuleux parce que tu vois, cuisiner, c'est magnifié. Tu magnifies la matière. Tu peux recommencer tout à zéro avec une petite gazinière, une poêle et puis hop, l'histoire est repartie. Tu vois, c'est quand même fou. Hein. Mais faut le réaliser ça. Tu vois.
Cuisine chez toi pour tes potes.
Beaucoup.
Ou... Ouais.
J'adore. Ouais, j'adore. Et pour mes enfants aussi, j'adore aussi. Et je cuisine beaucoup dans mes restaurants aussi. Et je dis souvent à mes cuisiniers, je dis cuisine pas pour toi, donne de l'amour, cuisine de l'amour pour tes clients. Ils sont là pour toi. Donc, tu vois, c'est un symbole très, très fort, tu vois.
On va arriver au bout de cet épisode, mais avant, je voudrais quand même que tu me racontes cette première étoile. Tu parlais de la rue Lauriston tout à l'heure. Peut-être cette première, cette deuxième, la deuxième première étoile aussi que tu as eue après. Mais tout ça, tu dis, tu veux ouvrir... Donc tu ouvres ton deuxième resto en propre. Tu as eu le premier à Tours. Le deuxième, c'était la rue Lauriston.
Ouais.
Donc, c'est quoi l'histoire de ce resto et comment elle vient cette première toile? Ça tombe pas du ciel, je veux dire. Alors il y a le talent, il y a le travail, mais faut faire venir des gens. Comment?
Non.
C'est du bouche à oreille. C'est vraiment un truc qui se fait par.
Comme on dit vraiment la persévérance et la chance, si tu veux, par le fait que je suis passé j'étais en RJ redressement judiciaire à Tours.
Ouais.
Et j'ai continué à travailler, j'ai redémarré, j'avais plus rien, j'étais plumé, j'avais plus que 500 euros dans ma poche où je suis allé acheter un peu d'épinards, du saumon, zéro client, j'ai commencé à faire du phoning tout seul, ma mère qui était à la plonge, ma sœur qui était là, qui était en train de m'aider, j'avais un serveur qui était venu travailler pour moi, tu vois, donc c'est un symbole assez fort parce que le serveur me disait, écoutez, chef, moi, vous me payez juste mon loyer, j'ai pas besoin de salaire. Tu te rends compte, tu vois, ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment des messages très forts. Tu te dis que quand même, à l'époque, j'avais 26 ans, tu vois, tu te dis que quand même, tu vois, j'ai su transmettre quelque chose, tu vois. Et j'ai
là,
démarré.
C'est quand t'es venu à Paris.
Non, non, non.
Non, ça, c'était à Tours. À Tours, juste après le RG. D'accord, enfin, pendant le RG.
C'était
okay.
Pendant le RG.
Ouais, okay.
Et au même moment, on a un inspecteur Michelin qui vient déjeuner dans ce restaurant.
Là, quand vous étiez comme ça, là.
En RJ, c'est toujours comme ça. Donc, je sors de ma cuisine, je vais le voir. Il me dit, écoutez, c'était super, on parle pendant une heure.
Mais tu ne savais pas au début.
Non, non, je ne savais pas. Il se présente à la fin.
Ouais.
Et là, il m'explique que... Enfin, moi, je lui explique que là, je suis en RJ, quoi. Je ne sais pas si l'année prochaine, je serai encore ouvert. J'ai voulu être honnête avec lui.
Ouais.
Parce que je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait me mettre une étoile.
Ouais.
Peut-être. Et le fait que je lui dise ça, ça l'a marqué. Quand j'ai ouvert à Paris, c'était le même inspecteur qui est venu me voir. Et la même année, j'ai eu une étoile. Tu vois comme quoi la vie, c'est pour ça que je dis toujours, c'est des successions de petites choses comme ça. Faut toujours y croire. Et c'est vrai que cette première étoile a été pour moi, j'étais extrêmement heureux parce que je connaissais personne à Paris. J'arrive. En plus, la presse commençait à vachement regarder ce que je faisais. Surtout que avant l'étoile, j'avais déjà pris le local en face de la rue Lauriston pour faire ce concept de viande avec les bio et tout. J'étais le premier aussi à le faire. Maintenant, tu vois, ça me fait rire parce que tout le monde fait des restaurants de viande.
Ouais.
J'étais le premier à le faire. C'est pour ça que là, je me dis, c'est génial parce que j'ai pu donner peut-être une vision de voir qu'est-ce que c'était le concept de demain. Et donc, j'avais déjà ce concept-là. Donc, on m'appelle pour me dire que j'avais gagné cette première étoile et j'étais ravi. Surtout que c'est une vraie belle reconnaissance.
Tu en rêvais, c'était un truc, c'était un objectif dans ta vie.
Complètement, t'en rêves tout le temps. Oui, bien sûr, mais tu sais, tout ce qui... Le Michelin, je vais te dire, il a beau être critiqué, souvent critiqué, très souvent d'ailleurs. D'accord, on est d'accord, on n'est pas d'accord, machin, bon. Mais ça reste quand même une référence, comment dire, c'est comme un Oscar, tu vois. C'est comme gagner une médaille olympique.
Ouais.
Voilà. Sauf que, tu vois, chaque année, tu la remets. C'est comme aller, tu vois.
Ouais. Et puis, c'est authentique.
Tu remets ton titre.
Tu vois, y a pas
tu dis, paf, je remets mon titre chaque année. Tu sais pas si tu vas l'avoir l'année d'après. Tu sais pas. C'est le jeu. Donc, si tu décides d'être dans la cour, il faut y aller. Mais surtout, il ne faut jamais oublier, ça, c'est ce que je dis souvent, il y en a qui font vraiment des restaurants que pour ça.
Ouais.
Moi, je ne crois pas que c'est une théorie exacte. Je crois qu'il faut faire des restaurants pour ses clients. Il faut avoir un restaurant qui soit plein. Souvent, il y a des restaurants qui ont 2 étoiles, 3 étoiles, ils ne sont pas pleins.
Ouais.
Et je pense qu'il faut faire des restaurants pour ses clients.
Et ton objectif quand même reste un sac suprême de 3 étoiles.
Oui, bah j'adorais, parce que pourquoi j'adorais incarner un jour un 3 étoiles, parce que tu incarnes beaucoup de choses.
Oui.
Je crois que les étoiles de demain, ça seront ceux qui vont avoir des vrais messages. Parce que pour les jeunes qui, tu sais, qui sont dans le métier, qui démarrent aujourd'hui, ils ont besoin de références. Ils ont besoin de se dire un jour, je voudrais être comme ça. Et à l'époque, on admirait l'époque d'avant, les Ducasse admiraient les Chapelles.
Ouais.
L'époque de maintenant, je ne sais pas qui ils admirent.
Les gens de Top Chef.
Ben voilà. Donc tu vois, il faut renouer les liens entre les chefs étoilés avec cette jeune garde qui est en train d'arriver aujourd'hui. Puis il faut savoir que les jeunes aujourd'hui ils vont beaucoup beaucoup plus vite que les cuisiniers d'avant.
Et d'ailleurs, alors on part un peu d'un extrême à l'autre, mais tu parles des jeunes cuisiniers, tu parles des gens qui vont vite, mais c'est quoi ta vision de toutes ces émissions, et pourquoi t'es pas dedans, t'es tellement bankable toi en fait?
Non, on m'a déjà proposé plusieurs fois. J'ai toujours refusé, tu sais, tu m'as dit un truc très vrai tout à l'heure, j'ai toujours essayé d'être dans une communication entre les deux. Moi, je me vois pas arriver sur un plateau à juger quelqu'un, à lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, enfin tu vois, bon, je l'ai fait qu'une fois, c'est vrai, c'était à Beyrouth pour le Top Chef de Beyrouth, je l'ai fait. J'ai adoré cette expérience, mais j'étais invité guest pour être là, pour goûter les plats, et puis il y avait surtout les avis des chefs qui, eux, étaient vraiment là pour...
toute la saison.
Pour toute la saison. Mais moi, demain, tu vois, si je dois faire une émission, et ça, je vais te dire, là, vraiment, j'avais pensé, mais je me suis dit, il faut que j'y arrive. En fait, ce que j'aimerais, c'est prendre mon micro, tu vois, un jour... et aller voir les chefs, tu vois, 3 étoiles de France. Et tu vois, je leur fais une interview.
Tu vas faire un podcast ?
Un podcast de chef, tu vois, mais de chef à chef.
Ouais,
c'est-à-dire
trop bien.
C'est-à-dire que c'est toi qui poses la question et le chef de 3 étoiles te dit, moi, c'est lui qui te dit qui tu veux inviter la prochaine fois ton podcast. Je rêve de faire ça parce que pourquoi ? Un chef qui parle à notre chef, tu sais, moi je vais rentrer dans les trucs vraiment et c'est-à-dire que on va faire un podcast, mais c'est que je cuisine avec lui.
Mais tu sais que c'est
je rêve de faire ça.
C'est vraiment ce que moi j'aime bien, cette approche de pair à pair. Et là je te prends comme chef, alors j'y connais rien évidemment là-dessus, mais je te prends aussi comme chef d'entreprise.
Bah,
et
oui,
c'est ça
sûr.
Qui m'intéresse.
Bah, oui, oui.
Et ce côté un peu commun, ces points communs qu'on peut avoir. Et je pense en effet que plus tu te rapproches dans un métier très 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 très, très enfin, identique, plus t'as une expertise et une vision précise.
Il y a une émission comme ça qui a été faite et c'est là où elle m'est venue cette idée. C'est Jeff Bezos qui se faisait interviewer par...
Je pense que c'est le patron de LinkedIn, non?
Non,
parce que comment il s'appelle y a
le patron de LinkedIn,
non, Reid Hoffman, en tout cas, c'est lui, il a un podcast qui est très bien, qui s'appelle, I would say, Masters of Scale,
ouais.
Qui est un très bon podcast, mais peut-être que c'est un autre encore. Mais...
C'est patron d'un fonds d'investissement qui s'appelle...
Ah, Peter Thiel, non
un gros fonds d'investissement.
Marc Andreessen. Andreessen Horowitz, non,
non, je vois pas.
Bon, on trouvera, je mettrai les liens.
Ouais, voilà, et c'était très intéressant parce qu'il lui posait des questions, tu vois, il lui disait est-ce que ta carte bleue, elle a une limite Tu vois, des trucs comme ça. Mais c'est hyper intéressant. Bon, là, ils sont dans un contexte, parce qu'ils sont dans un contexte assis. Moi, c'est de faire un contexte où je suis face à face au chef, on cuisine ensemble, on discute, et tu vois, il te parle de son enfance, il te parle de trucs, voilà.
Trop bien.
Ouais, je sais pas, c'est une idée, après, est-ce que je vais y arriver, je sais pas, mais c'est une idée. Et de la faire en, tu vois, sur Instagram, en live, tu vois, ça peut être marrant.
Ouais.
Voilà.
Trop bien. Écoute, je suis impatient que tu lances ça. Généralement, j'ai l'impression que tu fais ce que tu dis.
Oui, parce que c'est bien. Des fois, tu sais, on se dit des choses. Entre chefs, tu sais, il y a des moments pas faciles. C'est vrai. Hein, c'est très dur aujourd'hui. Quand t'es chef salarié, quand t'es chef entrepreneur. C'est deux pas différents, vraiment.
Ah ben oui.
Parce que quand tu fermes le resto tous les soirs, tu fermes pas de la même manière ton restaurant. Tu penses déjà à ta journée du lendemain. Et le lendemain, quand tu te lèves, tu te dis, il y a la fin du mois qui arrive. Il faut que je fasse les salaires, les trucs. Si t'as pas de clients au restaurant, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, t'as plein de... Alors qu'un chef salarié, tu vois, va pas être aussi préoccupé par ça. Tu vois.
J'entendais ça dans justement le podcast Mouiller la chemise qui est produit par Nouvelles Écoutes avec qui je travaille un peu et puis proposé par Figari où la patronne Nathalie Ballat de La Redoute qui dit le jour où en fait j'ai repris La Redoute c'était plus pareil que quand j'étais DG avant en fait. Avant elle était DG employée et voilà et on est vraiment dans des choses où en termes de pression et de c'est différent même si évidemment être DG PDG d'un groupe comme ça c'est pas si simple.
Non c'est pas si simple.
Très bien. Pour revenir juste sur un point et après je vais te demander trois petites questions traditionnelles du podcast. T'as l'air sympa, Akram, et t'es sympa, et voilà, tu nous l'as prouvé, mais en fait, on voit plein de chefs à la télé, on voit plein de... où c'est dur, c'est, tu vois, ça gueule, c'est machin, c'est la guerre, c'est l'armée, c'est tout ça. C'est comment, ça se passe comment dans ta cuisine?
Oh, zen.
C'est vrai?
Ils sont... Ah non. Moi, je traduirais mon management, je dirais, de leur déléguer les responsabilités. C'est-à-dire que chaque chose qu'ils font au restaurant, ben, ils font des erreurs, mais on les arrange après, pas pendant le service. Et on en discute. Je suis pas dans le conflit. Je déteste. Ouais. Vous voyez, parce que ça mène à rien. Tu vois, le stress, en plus de ça, pendant le service, même avant, le gars peut pas être top. Et puis, je crois qu'il faut vraiment être humain.
Mmh.
Tu vois, quand tu as des jeunes qui se donnent pour toi autant... Il faut aussi savoir être reconnaissant de leur travail. Donc, si par exemple, des fois, moi je suis très mea culpa, on peut louper un plat, tant pis, on refait. Pourquoi on se prend la tête? Ouais. Tu vois? Des fois, il y en a qui gueulent, ouais, moi je peux pas. Je peux pas. Ça me stresse, tu vois.
C'est quoi tes petits secrets, soit d'orga, je sais pas, si t'as des petites choses que tu fais le matin en te levant, des applications sur ton téléphone, des livres que t'as lus, quelques petits trucs qui changent ta vie.
Ah, j'adore faire du karting avec mon fils.
Où ça? Tu fais ça où?
RKC. Ah,
j'adore le karting. Moi, ça fait des années que j'en ai pas fait.
Moi, j'adore. Puis on est en pro, hein, donc tu vois. Et puis j'adore la Formule 1. J'ai mon meilleur ami qui est Romain Grosjean qui pilote chez Haas. Du coup, ça m'arrive de temps en temps quand je peux aller sur des grands prix.
Tu vas me le faire venir.
C'est génial. Ah oui. Tu vois, c'est un mec extraordinaire.
Ouais.
Et puis j'aime bien la boxe. J'en fais. Là depuis maintenant un mois et demi et franchement ça me fait vraiment du bien, ça me défoule.
Ouais.
Boxe et cardio en une heure, c'est très intense.
Prends des coups dans la gueule un peu ou pas encore?
Pas encore, j'en donne là. et puis voilà, après sinon j'adore découvrir des nouveaux restaurants, je sors beaucoup dans les restaurants, beaucoup. Et puis je crois que c'est important aussi d'avoir une vie sociale avec ses amis. Tu vas te sortir au restaurant avec ses amis, tout ça. Faut pas.
Mais comment
trop...
t'arrives à tenir tout ça, tes enfants, ta boxe, ton kart, tes amis, tu bosses comme
non,
un malade?
Non, il faut savoir gérer son temps.
Ouais.
Tu vois, il faut aussi prendre du temps.
Ouais.
Tu vois, par exemple, à l'époque, je prenais pas de soirée. Tu vois, maintenant, je prends une soirée. Si je dois aller dîner avec des amis, je prends ma soirée. Tu vois, c'est normal. Sinon, tu deviens fou. T'as plus de vie. Et il faut avoir une vie parce que quand tu as une vie, ça te permet de pouvoir vraiment être beaucoup plus productif, créatif. Pour un créateur, il a besoin d'être entouré de ses amis, de, tu vois, c'est important.
C'est quoi ta pire nuit blanche d'entrepreneur, je veux dire. Mais
ouais. Écoute, il n'y a pas longtemps, je rentre chez moi à la maison, il était minuit, c'était à la fin du service, et j'avais mon directeur de salle qui m'appelle, j'étais dans mon lit, hein, je m'étais brossé les dents, machin et tout, bon bref, voilà, et là je me suis dit, tu sais, c'est le moment que j'adore, tu rentres dans ton lit, sous ta couette, et là tu dis, ah, c'est bien, tes jambes, ils commencent à te reposer, tout, je me suis dit, je suis au top. Et là, j'ai donc mon directeur de salle qui m'appelle, il me dit, écoutez, chef, on a un gros problème, il y a une grosse fuite d'eau dans le restaurant. Je dis, quoi? Il me dit, oui. Donc, je me suis rhabillé, je suis retourné au restaurant. Je te parle du restaurant à Cramin. Et là, je retourne au restaurant. Et là, je voyais de l'eau fuir d'en dessous du frigo. Mais de l'eau, quand je te dis, c'était comme si tu avais mis un tuyau d'arrosage ouvert. Et ça fuyait, ça fuyait.
Un restaurant qui est tout neuf quand même, il faut le dire.
Un restaurant qui est tout neuf. Et là, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, je fais quoi? Il était 1h du matin, j'ai pris la raclette, j'ai commencé à racler. Donc, le directeur, il est avec un chef de rang, il me voyait racler, il me disait, non, laissez. J'ai dit, non, je vais le faire. Ils sont restés avec moi jusqu'à 3h30 du matin. Ils ne voulaient pas partir. J'ai dû appeler les plombiers, tout ça, les plombiers de nuit. En plus, c'est tous des escrocs. Parce que les mecs, ils croient que tu sais.
Je te confirme, ouais, c'est compliqué.
Voilà. J'ai raclé. Après, je les ai fait partir. Je leur ai dit, écoutez, laissez tomber, c'est ma responsabilité, allez-y, c'est moi. Surtout que le matin, j'avais une télé. Je devais faire une télé avec M6
ouais.
Pour le reportage sur Printemps. Et je devais être là-bas à 11h. Je suis resté de 1h du matin jusqu'à 10h du matin sur place. J'ai pas dormi. Je suis rentré chez moi le temps que le plombier arrive et tout. On a trouvé la fuite. Et je suis rentré chez moi. J'ai pris une douche et je suis allé à Printemps faire l'émission. Voilà, c'était une nuit blanche. On va dire... oui, c'était un peu compliqué, mais ça va, tu vois. Mais bon, c'est...
T'es vivant.
Je suis vivant, ouais.
Toute dernière question, qu'est-ce que tu dirais à Akram quand il débarque de l'avion, j'imagine que t'es venu en avion d'ailleurs, je sais pas, d'Algérie.
Je suis venu en bateau.
Alors, quand
en
il
bateau jusqu'à Alicante.
Quand tu débarques en France, là que t'arrives à Tours en 94, qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais lui glisser un petit mot derrière l'oreille là?
Ah, très bonne question, Lyon. Qu'est-ce que je dirais? Oh là là, c'est... je sais pas. Franchement, c'est une question dure. Hein.
Ouais.
Je lui dirais ne baisse jamais les bras. Voilà ce que je dirais.
Bah écoute, j'ai l'impression que t'as jamais baissé les bras, même si t'as pas eu l'occasion de passer derrière.
Non, mais la vie est longue. Hein.
Ouais, ouais, carrément.
Tu sais, quand t'as démarré tout jeune à 37 ans, aujourd'hui, t'as encore plein de problèmes à gérer, ouais, tu vois, des trucs comme ça. Bon, c'est normal. Tu vois, la vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Mais ce qui est super, c'est vraiment je partage tout avec mes collaborateurs, tout.
On te suit sur Instagram.
Oui.
On te suit sur LinkedIn, non, peut-être pas. On te suit
Ouais. Je mets des photos de plat.
D'accord.
Sur LinkedIn.
On t'ajoute un peu partout sur les réseaux sociaux, mais ton réseau favori, c'est Instagram.
Oui.
Pour
un cuisinier, je crois que c'est vraiment... Ouais, il n'y a pas quoi. C'est un vrai outil de travail. Hein.
On trouve tous tes restos où sur Internet?
On peut trouver sur Internet. Akram, alors, c'est Akram Power, P-O-W-E-R.
D'accord.
Donc, il y a tous les restaurants. Et puis, voilà. Donc,
on peut acheter ton livre qu'on
absolument,
trouve aussi
le livre
sur,
Instinct, le livre Atelier Vivanda.
Je les mettrai tous en lien, évidemment, les livres, les liens des restos, etc. etc. Et puis, tu disais que tu fais des conférences, on peut te booker si on veut. Enfin, voilà. Ouais. Je te remercie mille fois d'avoir pris tout ce temps-là.
C'est moi qui
on
te remercie.
On est pile poil dans les temps que tu m'avais donné.
C'est super.
À la minute près. Tu m'as dit plein de choses. Je ne m'attendais pas à tout ça. Tu sais quoi, Akram, on m'a poussé des invités il y a quelques mois. Il y a eu un moment où je me laissais un petit peu porter par les invités qui, entre guillemets, venaient à moi. Et depuis quelques semaines, j'ai décidé de reprendre la main là-dessus et de choisir moi-même tous mes invités, d'aller les chercher.
C'est bien.
Tu vois. Et avec toi, j'ai choisi, j'en ai parlé avec Olivier Goua, que je remercie encore. Et je le sentais bien, ce truc, tu vois. Et voilà, moi, j'ai passé un super moment avec toi.
Moi aussi, c'est écoute,
une pleine franchise.
C'est des super bonnes questions. Et si je peux dire juste un mot, justement, aux auditeurs, tout ce que je dis, c'est qu'une vérité. La vie, il faut savoir bien la prendre. Tu sais, c'est faut jamais stresser, faut jamais avoir peur, ne serait-ce que pour un... Tu sais, des fois, on veut prendre... par exemple, le projet d'une vie, tu vois, ouais. Le projet d'acheter une maison, d'acheter une voiture, il faut jamais baisser les bras, tu vois, toujours avoir cet optimisme et ne rien lâcher, tu vois. Tant que ça touche pas, tu vois, la santé, pour moi, c'est ce qui peut arriver de pire dans une
d'accord.
vie.
Les choses que tu...
Tout le reste, c'est que du bonus.
De ta santé ou celle de tes
voilà.
proches,
c'est quelque chose que du bonus. Voilà.
Écoute, je pense que tu prêches un convaincu et beaucoup de convaincus qui sont arrivés jusque-là avec nous. Je te remercie une fois de plus. Et puis, pour bien prendre la vie, je vous recommande d'écouter plus Génération Do It Yourself.
Exactement.
De le noter sur les App Store, d'inciter fortement vos amis à l'écouter, votre maman, vos cousins, votre patron, vos employés, et de partager, de les abonner de force, je le dis de plus en plus, hein, sur leurs iPhone ou leurs smartphones. Et voilà, je vous remercie d'être avec nous épisode après épisode. Je suis toujours très touché par les retours et voilà, c'est avec une grande humilité que je dirais pas que je subis parce que je travaille pour ça, mais que je constate le succès petit à petit qui grandit de ce podcast, et c'est grâce à chacun d'entre vous. Donc merci, et une dernière fois merci à Akram.
T'en prie, merci.
Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@causavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.